Oh, voyez-vous, ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu imagines si c'est le Démogorgon?
Ça veut dire qu'on est piégé, chacun pour sa peau.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Oh, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour!
Hey.
Bonjour Mathilde, comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va, et bonjour Damien, comment ça va?
Bah ça va bien, en plus j'ai eu un petit temps où je me suis dit tiens, j'écoute un podcast, et après je me suis souvenu que non. Quand t'as dit bonjour, j'ai vraiment cru que j'étais en train d'écouter un podcast, c'était très perturbant.
Il faut que je caricature pas trop ces bonjours.
Non, je pense que c'est bon signe justement.
Ah, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a trop de types de pommes. L'autre jour je vais au magasin. Et j'arrive devant le rayon de pommes et je suis complètement perdu. Genre, il y a des rouges, il y a des jaunes, il y a des verts, il y a des rouges jaunes. Alors que moi, attends, je veux juste faire de la compote. Pourquoi c'est si compliqué?
Je vois pas où il va.
C'est dur de pas laisser un blanc.
Alors que les bananes, c'est vachement plus rassurant. Il y a un seul type de banane, t'arrives, tu prends ta banane et voilà.
Tu sais qu'il y a plein de
types
de bananes.
Il y a au moins 12 variétés de bananes différentes.
À Biocop, il y a que des bananes jaunes. Éventuellement, le seul truc que tu as à faire, c'est de savoir s'il y en a 2 ou 5 ou 6. Mais si je vous raconte tout ça, c'est parce que ce mois-ci, on va parler de stand-up.
Ah.
Et du coup, c'est un sketch,
tu testes en 5 minutes. Enfin,
franchement,
en 30 secondes.
Bah, je répète. On va parler de stand-up ce mois-ci avec la série Drôle sur Netflix, mais pas seulement. On va aussi parler de Pam et Tommy sur Disney+.
C'est pas drôle, ça.
De... Il y avait du stand-up dans Pam et Tommy.
Non, il fallait dire Mrs. Maisel, de...
ah, oui,
qui fait du stand-up.
De Marvelous Mrs. Maisel,
si,
qui fait du stand-up sur Prime Video. Et de Alerte Rouge sur Disney+.
Red Alert.
Tout.
Oui.
Tout,
non,
tout.
C'est même pas Red Alert.
Oui, c'est autre chose. Tout.
Non, oui, c'est...
C'est Turning.
Turning Red. Mais avant de commencer, on va parler des actus. On a plein d'actus ce mois-ci. On n'a jamais eu autant d'actus.
C'est parce qu'il n'y a pas de hype it.
Il n'y a pas de hype it, effectivement. Mathilde, on te laisse commencer à parler des actus.
On va faire comme dans Dragon Ball, Super Fusion.
Il n'y a pas de super personne. Ah, peut-être dans Dragon Ball Super.
C'est pas Super Fusion?
C'est Fusion.
Fusion. Ok, tant pis, j'ai raté mon
ça
intro.
Ça marche quand même.
Ouais, en plus, c'est un vrai rapport. On va parler d'une fusion entre Wakanim, Funimation, je crois, et Crunchyroll, qui sont trois plateformes de SVOD qui propose des animations japonaises. Quoi? Pourquoi tu as mon fixe? De l'animation japonaise. Et ils vont tous les trois se rassembler sur Crunchyroll, qui sera donc la seule plateforme au final, créant un énorme catalogue d'animés. Et c'est vraiment trop cool. Et actuellement, il y a encore Wakanim qui est encore dispo.
Et j'ai cru voir que les premiers déménagements d'animés avaient eu lieu justement.
Ouais,
ces derniers jours-là.
Ils ont bah, en fait, ils ont commencé à mettre tout ce qu'il y avait sur Wakanim sur Crunchyroll. Et donc c'est bien, mais du coup, moi j'étais abonnée à Crunchyroll, donc à Wakanim. Du coup, je suis en mode, j'ai pas tout ce qu'il y a sur Crunchyroll, donc du coup, je suis triste. Donc, je me suis désabonnée. Voilà, la triste nouvelle. Et normalement, quand t'étais abo à Wakanim, on aurait dû recevoir un mail.
Sois patiente.
Ouais, je me suis désabonnée.
La loose.
Ouais, normalement, j'aurais dû avoir un mail avec un code qui me permettait d'avoir Crunchyroll gratuit pendant 60 jours, et je l'ai pas reçu, et je suis triste. Mais c'est la vie. C'est la vie. On verra bien. Mais en tout cas, c'est une super fusion parce que le catalogue est vraiment énorme.
C'est vrai.
Et ça va être trop bien. Donc, il y a de fortes possibilités que je m'abonne à Crunchyroll après. Je crois que c'est un petit peu plus cher. Par contre, c'est 7,99.
Oui, mais...
Non, je ne sais pas les prix.
On peut le prendre à plusieurs et le diviser.
C'est vrai.
Il y a combien d'écrans?
Bah, en fait, j'en sais rien.
Je crois qu'il n'y a pas d'écran.
Il n'y a pas d'écran. Tu payes pas
personne.
D'écran.
Non, mais il y en a qu'un.
Pourquoi est-ce que quelqu'un a mélangé tout?
Parce
qu'on
peut faire un petit erratum. C'est Crunchyroll.
Non, moi je dis Crunchyroll.
Bah là, t'as dit Crunchyroll.
Et bah, je dis Crunchyroll, c'est bien. C'est pareil.
Damien, t'as de l'actu aussi.
Oui, c'est une actu qui est vraiment datée de deux jours.
C'est même plus d'actu.
C'est pas d'actu,
c'est
du coup.
C'est un peu vieux maintenant. Après. C'est la sortie de Moon Knight. Le premier épisode est sorti sur Disney+, et je l'ai regardé. J'avais beaucoup aimé. Voilà.
Mmh. Est-ce que sortir... c'est interdit au moins de 18?
Pas du tout. Je pense que c'est interdit au moins de 10.
Mais j'ai entendu dire que c'était méga violent.
Méga violent. Par contre, les 30 premières secondes, je pense que si vous êtes comme moi, vous allez être un peu crispé et après ça va mieux.
C'est
rassurant.
C'est PG-16, je crois, aux US.
Je pense que c'est vraiment juste pour les 30 premières secondes.
Ah ouais?
Ouais.
Ok.
Ah, c'est rassurant.
Matez juste les 30 premières secondes et soyez crispés.
Et on en reparle.
De toute façon, on en parlera le mois prochain. Je sais pas trop combien il y a d'épisodes. Si c'est le mois prochain ou le mois d'après.
À mon avis, ce sera celui d'après parce qu'à moins qu'il y ait que.
Effectivement.
Ouais, c'est short quoi.
Ouais. Bon, ouais, on en parlera. De toute manière, on vous en parlera quand la série sera terminée. Et il y a la suite de La Flamme qui a été annoncée. On a eu quelques infos. Ça s'appellera Le Flambeau.
Quel bon nom.
Ah, magnifique.
On savait déjà que c'était une parodie de Koh-Lanta.
De Survivor. Pardon.
De Survivor.
Normalement, il parodie plutôt les...
Peut-être qu'en France, ce sera Koh-Lanta. Je sais pas, peut-être. On verra.
Bah, genre, La Flamme, il parodiait plutôt la
série... Le Bachelor.
Ouais, mais au final...
Mais ça existait, le Bachelor, en France.
Mais en fait, il parodiait plutôt la truc US. Enfin, on s'en fout un peu, mais...
En tout cas, un poster est sorti, il n'y a pas de date, mais ce sera en avant-première pour Cannes Série. Et Cannes Série, ça commence maintenant, ce week-end.
Aujourd'hui.
Tout doux, doux, doux.
C'est juste après Lille Série.
Non, c'est, c'est Série Mania, c'est presque ça.
J'étais pas loin.
Autrement, un film Apple TV+ récompensé aux Oscars, c'est le film Coda, qui a remporté par surprise... l'Oscar du meilleur film. Et c'est historique. Puisque
bah, j'avoue que c'est une surprise. Quel est ce film?
C'est vrai qu'on l'a pas vu. C'est le remake de US de La Famille Bélier.
Ah.
Vous vous rappelez le film avec la famille
avec
sourde
Loulou.
Et Louane. Et bah donc, ça a remporté pour la première fois dans l'histoire des Oscars un film original à remporter donc, la statuette du meilleur film. Donc,
Tu vois? Et on se moque beaucoup de Apple TV qui fait pas beaucoup de choses et qui a pas
Foundation.
Hein? Oui, mais qui a pas de catalogue vraiment au point de Netflix ou de Prime Video. Mais en fait, ce qui sort est vraiment de méga qualité.
Ouais. Bah, la preuve.
Donc,
Même si, bon, il y a déjà des gens qui disent ouais, c'est pas hyper mérité, Coda c'était pas si bien. Enfin, bon, bref, c'est pas.
Mais tu l'as
sujet.
Vu? Moi, j'ai pas vu.
J'ai pas vu. Vraiment, je savais même pas que ce film était sorti. Il est un peu passé à travers. Et on a une date pour House of the Dragon. Oui.
Est-ce que c'est un peu comme Soda avec Kev Adams?
Pas du...
Oh, j'étais en train de chercher le nom de la série pour faire ma blague.
C'est
et
vrai
vraiment...
On le voyait taper là, en sueur, comme ça, il faut que je trouve la blague. Et elle est arrivée trop tard parce que j'avais déjà enchaîné avec l'actu suivante.
Tu peux mettre
un mouchoir. Une date pour House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Qui sortira donc le 21 août 2022 sur
en
HBO Max.
En plein milieu de l'été.
Oui, en plein milieu de l'été. Et surtout, c'est très malin.
De quoi ça parle?
Parce que ça sort 2 semaines avant Les Anneaux de Pouvoir, la série Seigneur des Anneaux sur Prime Video. Et donc, ça arrivera en même temps sur OCS, puisque ce sera dans la nuit à 3h du matin. En même temps que la parution...
3h du matin,
Et pour information, il y a HBO Max qui va arriver en France.
Ouais.
Mais de toute façon, c'est pas sur Canal, du coup.
Non, mais pas
non,
avant.
C'est OCS.
Oui, mais OCS.
Non, c'est HBO Max.
Ok.
Mais en fait, la plateforme HBO Max est déjà sortie aux États-Unis et elle n'est pas encore arrivée en France parce qu'en fait, comme tu peux le voir là, le 22 août, ils vont sortir cette série et elle est déjà promise, on va dire, à OCS. Du coup, ils ont prévu l'arrivée d'HBO Max que en 2023. Parce que pour l'instant, ils savent pas ce qu'ils vont faire de OCS, en fait.
Et oui.
Et ils savent pas si Orange va avoir un partenariat avec HBO Max. Enfin, il n'y a pas d'annonce qui a été faite sur que va devenir OCS si HBO Max arrive en France. Donc, à suivre.
Après ça, au moins, on pourra sans doute le regarder, du coup, sur MyCanal.
Oui.
Ce qui est déjà bien.
En attendant, OCS serre les fesses.
Ouais. C'est ça.
Eh ben, on a fini avec les actus. On va passer maintenant...
Oh, Aipito !
T'en as un ? Mais non, il n'y en a pas. Ouais. Bah voilà. Et eh ben, aux séries, alors ?
Oui !
On va commencer par une série que Damien a regardée, mais on va pouvoir en parler aussi, Mathilde et moi, parce qu'on l'a vue il y a un petit peu plus longtemps.
Elle est un peu connue.
C'est à peine. C'est The Office. The Office. La version US. Damien, t'as regardé la saison 1?
Oui, j'ai regardé les 12 épisodes.
Elle est courte. Elle est courte la première.
Mais surtout, il n'y en a pas du tout 12, il y en a encore moins que ça.
Il y en a 10. Moi, de mémoire, je pensais qu'il y en avait 10.
Ah oui, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, je me suis trompé. C'est sorti en 2005 et c'est toujours sur Netflix.
Et c'est aussi sur Salto.
Et avant, c'était sur Amazon. Ça voyage du coup depuis 2005. Je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup de résumer, mais si on devait résumer, c'est une série documentaire qui raconte la vie de bureau à l'aube du numérique quand la demande en papier baisse et ça prend place dans une entreprise qui vend du papier. Donc dans un contexte un peu tendu.
Ça parle déjà du numérique dans la première saison?
Pas du tout.
Ah oui, non, pas du tout. Non.
Il y a exactement 6 épisodes.
Oui, c'est ça, il semblait qu'il y en avait
très peu.
C'est très peu. Et du coup, il y en a peu, mais devinez le lien avec ce podcast. Normalement, il est facile à trouver, vraiment.
On vend du papier.
Mais pas du tout. Il y a le générique.
Mais oui.
Ah, mais oui. Il y a deux refs à The Office dans le générique. T'en as qu'une?
Ouais.
Ah, mais c'est parce
je crois que j'ai pas vu après la 5.
T'as jamais vu l'intégralité? Non. Mon Dieu.
Mais c'est parce qu'en plus, il y a une des refs qui est en VO et l'autre qui est en VF. Le No est en VO et l'autre est en VF.
Je regarde que en VO. Le gros snob.
L'autre est extraordinaire. Enfin, celle qui est en VF est incroyable.
Voilà, du coup, j'aime bien. J'aimais déjà bien. Et je l'avais déjà vu.
J'aimerais bien.
Plusieurs fois.
J'aime bien. J'aimerais bien.
Je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours aussi gênant à regarder, surtout la saison 1.
La saison 1 est à peine drôle en plus. Elle est vraiment full cringe.
En fait, les moments cringe sont drôles de gênance, oui. Quoi. Mais c'est pas en mode.
Je me rappelle que la 1, on rigolait pas. Enfin, je rigolais pas tant de gênance. J'étais juste. Oh là 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 là.
Ah ouais? C'était surtout au tout début.
Je comprenais en fait que c'était drôle, mais c'était, j'arrivais, c'était. Je veux pas faire ça en mode snobinard, mais c'était vraiment très très cringe.
Oui.
Alors qu'après c'est gênant drôle. Enfin, t'as de la tendresse pour Michael Scott qui devient attendrissant du coup. J'ai pas de vocabulaire.
Non mais c'est ça. Surtout qu'au début, il est vraiment juste horrible.
C'est juste un connard.
Ouais. Enfin, à la fois, il est toujours sur le fil entre connard et gentil. Mais...
Un peu de respect quand même.
Est-ce qu'il y a déjà dans la saison 1... Ouais,
tu peux avoir du respect pour Steve Carell et pas pour Michael Scott.
Est-ce qu'il y a déjà dans la saison 1 les trophées, là?
Les Dundies?
Les Dundies.
Oui.
Ah.
Oui, c'est le premier bisou. Donc oui.
Mais dans... Si, enfin, vraiment, on peut dire que c'est un connard, hein, parce que même Steve Carell était grimé pour être... physiquement un peu ingrat.
Un peu plus chiant.
C'est pour ça qu'il... En fait, sa chemise est remontée pour qu'il ait une sorte de double menton ouf. Sa coiffure pour qu'il ait une sorte de super calvitie. Enfin, alors qu'après, il est relooké.
Oui, mais par exemple, dès les premiers Dundies, Pam, elle est en mode « Ah, c'est triste, on va quand même être sympa avec lui, tu vois. »
Ouais.
Mais oui. C'est vrai que c'est surtout au début quand il... Et puis son espèce de pote horrible commercial aussi. C'est un combo, quoi.
Oh là là. Ça donne envie de regarder. Faudrait qu'on regarde un jour, genre on se fait un gage et on regarde la version française.
Une version française
qui est juste nulle.
Je suis pas sûr d'avoir envie.
Qui est horrible et qui est nulle.
En tout cas, voilà, j'ai bien aimé regarder la saison 1. J'étais content de revoir Steve Carell et c'était très top. Et j'ai regardé ça en même temps qu'une autre série.
Celle qui est en dessous?
Oui, celle qui est en dessous.
Et oui.
Ça tombe bien vu qu'il y a un lien.
Vas-y Damien, dis-nous ce que c'est si tu veux.
C'était Space Force, c'était la saison 2 qui elle est beaucoup plus récente, c'est sorti le mois dernier je crois, parce que j'ai mis une nouveauté. Donc il y a 7 épisodes de 25 minutes, qui est pas ça. C'est sorti sur Netflix.
C'est parce que Mathilde fait autre chose en même temps.
Bah oui. Donc, je vais faire un petit résumé. Le 18 juin 2018, en fait, ça c'est le résumé de la saison 1, pardon. Le gouvernement fédéral annonce la création d'une 6e division au sein des forces armées américaines. L'objectif de cette nouvelle section, défendre les satellites contre des attaques et exécuter diverses missions liées aux opérations spatiales. 3 petits points, plus ou moins.
Oh.
J'étais obligé de dire les 3 petits points. Donc ça, c'était plutôt le résumé de la saison 1. Mais dans la saison 2... C'est un petit peu la suite et à la fois c'est un petit peu rien à voir. Genre il y a des... Non mais ça s'appelle Space Force et par exemple dans la saison 1 et ils vont dans l'espace, pardon pour le spoiler, dans les saisons 2, moins. Alors, on voit l'espace, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. C'est très bizarre. Je sais pas...
Après, c'est plus ils préparaient des trucs dans la saison 1.
Ouais, mais ils y allaient quand même.
Sur Terre.
Il y a un ou deux épisodes où ils sont dans l'espace.
Ouais, voilà.
Ouais.
Là, moins. Vraiment moins. En tout cas, j'étais très content de tous les retrouver pour la suite des aventures spatiales. Moi, j'aime beaucoup John Malkovich, il est très drôle. Je me souvenais que c'était rigolo la saison 1, mais que ça manquait un peu de rythme et que je m'étais un peu fait chier par moments, mais c'était quand même un peu marrant, quoi. Et là, je trouve que c'est plus rigolo globalement. Et en plus, le rythme, il est mieux fait. Il y a un peu plus de... On va pas dire du suspense parce que ça reste un truc marrant, quoi. Mais c'était quand même un peu plus rigolo. Voilà. John Malkovich est encore plus drôle que dans la saison 1. Et c'est tout pour moi. C'était très bien. Regardez-le.
J'ai entendu un truc l'autre jour sur Space Force qu'en fait, ça se foutait vraiment de la gueule d'un truc que Trump avait mis en place où il avait vraiment créé une Space Force.
Ah ouais, parce que moi j'avais entendu qu'il avait créé ça et que juste après la série était sortie, qu'ils étaient en mode bah merde, on a fait une parodie d'un truc.
Je sais pas. Moi j'avais entendu que la série se moquait vraiment de ça, que Trump avait vraiment créé une sorte d'armée pour l'espace. Alors que officiellement on connaît personne, donc il y a rien à défendre.
Bah c'est vrai qu'il y a les satellites.
Oui.
C'est tout.
On va passer la parole à Mathilde pour une série qu'elle a regardée seule tout.
Ouais, je l'ai commencé le mois dernier et je l'ai fini en début de mois, donc c'est lointain, très lointain. C'est Jane Austen, Bienvenue à Sandington. Donc c'est une série adaptée du roman de Jane Austen qui s'appelle Sandington. J'ai regardé la saison 1 qui fait 8 épisodes d'environ 60 minutes, donc c'était un peu long. C'est sorti le 25 août 2019 et c'est dispo sur Canal+. Et il me semble, je vais le dire à la fin... pour résumer, début du 19e siècle en Angleterre, les Parker ont décidé de faire de leur charmant petit village en bord de mer la nouvelle station balnéaire à la mode. Quel n'est donc pas leur bonheur lorsque la fille aînée des Edwood, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Charlotte Edwood, leur toute nouvelle connaissance accepte leur invitation d'y séjourner pendant l'été. Charlotte est une jeune fille raisonnable qui a grandi à la campagne dans une famille nombreuse et aimante. La société des Sandington n'est alors pas très variée, mais c'est déjà pour elle une occasion unique d'exercer ses talents d'observatrice. C'est très bizarre comme résumé. Qu'est-ce qu'elle observe ? On ne sait pas.
En fait, on fait presque un podcast sur les résumés.
On va l'appeler résumé finalement, notre podcast. Moi, j'ai pas lu le roman Sandington, mais en tout cas, donc je peux pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise adaptation. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette série. C'était plutôt agréable à regarder et ça m'a fait un peu penser à Downton Abbey, donc des séries un peu historiques dans le même genre. J'aime bien l'ambiance, les costumes, ils sont cool, les acteurs sont bons, dont l'actrice principale qui joue Charlotte. Je ne sais pas son nom, mais je la trouve vraiment. Elle joue très bien. La saison 1 se termine sur une belle intrigue qui donne envie de regarder la suite. Et ça tombe bien parce que la saison 2 a débuté, la diffusion a débuté le 20 mars. Donc en fait, il faudrait que je regarde la saison 2. J'ai pas encore regardé. Mais à la fin de la saison 1, j'étais en mode « Oh, je veux la suite !» Et en fait, c'était début mars.
T'as eu 20 jours
où... Oh non, je dois attendre et j'ai oublié. Voilà.
Mais c'est que ça allait quand même.
Oui, non, ça va. Ça allait. Mais c'était vraiment... Voilà, c'était sympa. Et c'était peut-être un peu long à démarrer, mais après, ça s'envole.
Ça s'envole. C'est beau.
C'est beau.
Et du coup, est-ce que c'est une bonne adaptation ?
Je sais pas, j'ai pas lu Sandington. J'ai lu d'une Jane Austen, mais pas Sandington. Désolé.
Pas de soucis.
Pas qu'à lire.
Ou le regarder.
Ou le regarder. C'est toujours...
Parce qu'il faut faire les deux, en plus, pour donner...
Je suis pas sûre que ça te plaise, en vrai, à regarder, par contre. C'est un peu lent. Et ça parle de romance, quand même. Et pas mal de l'émancipation des femmes aussi, le fait que Charlotte n'a pas envie d'être dans son rôle de femme au foyer et tout au 19e siècle, c'est quand même important. Enfin, c'est du Jane Austen, quoi.
On va rester sur une série avec des filles.
Des femmes.
Que Mathilde a regardé.
Oui, c'est The Marvelous Mrs. Maisel. Mrs. Non, c'est Madame.
Miss.
Si tu fais un mélange de anglais-français, oui.
T'as mis MRS ?
C'est Mrs. Maisel.
Mrs. Maisel.
Si elle est divorcée, c'est Mrs. Non ?
Non, mais en fait, elle a beau être divorcée, elle s'appelle toujours Madame
Maisel. MRS, c'est un titre honorifique pour les gens mariés.
Ouais, c'est ça. C'est Madame Maisel, normalement. Bon, donc c'est la saison 4 qui fait 8 épisodes de 55 minutes. C'est dispo sur Prime Video et c'est sorti entre février et mars, je ne sais plus exactement. Dans le New York des années 60, Midge Maisel, donc Myriam Maisel, vient de se faire exclure de la tournée de Shy Baldwin. Elle revient vivre dans son ancien appartement avec ses parents et fait tout pour retrouver le succès après retrouver son succès après ce désastre. Donc ça, c'est un résumé que j'ai fait moi. Pour situer, Midge Maisel a fait du stand-up et du coup, elle a fait dans la saison précédente la première partie d'un chanteur à succès.
Shy Baldwin.
Voilà. Et elle a été malheureusement virée en plein milieu de la tournée parce qu'elle avait découvert que cet homme était homosexuel en fait. Et elle a fait des blagues sur lui lors de ses sketchs et il n'a pas du tout apprécié les blagues. Elle n'a pas ouvertement dit à tout le monde qu'elle était gay, hein, rien à voir, mais il n'a pas apprécié les blagues et du coup, ça fait virer. C'était un peu triste alors qu'ils étaient amis et tout ça. Du coup, moi, j'adore toujours autant cette série. Ça a beau être la quatrième saison, elle ne s'essouffle pas, elle reste vraiment incroyable. C'est super marrant. Et le truc qui est le plus marrant, enfin, les sketchs de Mitch sont vraiment incroyables, mais les trucs encore plus marrants que ça, c'est les situations, genre, on va dire, un peu du commun dans cette vie de famille qui sont hilarantes. Genre, il y a un moment, typiquement, le truc qui m'a trop fait marrer, c'est elle appelle ses parents, et ses parents lui disent bah, on est en train de fêter l'anniversaire de ton fils. Et elle, est au téléphone, et elle dit mais c'est pas du tout l'anniversaire de mon fils, il est né en novembre, c'est. Enfin, ils doivent être en mai, tu vois. Elle fait ouais, mais novembre, ça nous arrangeait pas. Du coup, ses parents ont modifié la date d'anniversaire de son fils.
Après, comme ça, elle a plusieurs anniversaires.
Elle en a qu'un. Pour que ça rentre bien dans l'emploi du temps.
Bah, et elle le fait quand ?
Non, mais ça n'a pas de sens.
Je suis vraiment pas sûr qu'on puisse faire ça. Hein.
Bah, tu peux, mais c'est pas un anniversaire. C'est une fête.
Mais du coup, vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça du quotidien qui sont vraiment super, super amusantes. Rachel Bros. Ah, j'arrive pas à dire son nom de famille.
Brosnahan.
Ouais, qui joue Midge est toujours incroyable. Enfin, elle est vraiment incroyable. Je crois qu'elle avait eu un
prix.
Golden Globes.
Ouais, un prix pour son rôle au moins dans la saison 1. Et elle mérite vraiment amplement. Les décors, les costumes et toute l'ambiance, c'est toujours waouh, waouh, waouh. Les tenues de Midge sont. On a envie de porter toutes ces tenues colorées, tous ces chapeaux incroyables. C'est vraiment ouf. Le truc qui est vraiment sympa dans cette saison, c'est que j'ai bien aimé que Mitch prenne son indépendance dans l'humour. En fait, jusqu'à maintenant, elle était un peu obligée de faire ce qu'on lui demandait. Elle n'avait pas trop le droit de faire des blagues. Enfin, ça devait rester correct, tu vois. Mmh. Et du coup, là, elle sort un peu de ça. Et comme elle a été jetée un peu de partout, sa carrière, clairement de l'ail, plus personne ne veut la prendre pour jouer. Du coup, elle se retrouve à jouer dans un cabaret illégal. Dans ce cabaret, les filles font de l'effeuillage et c'est totalement illégal. Mais elle est là pour... Elle fait des sketchs entre les numéros d'effeuillage et elle annonce les filles, en fait. Mmh. Et au départ, c'est très clair, enfin c'est très simple, elle commence à dire... après vous allez voir Bidule et tout. Et puis au fur et à mesure, en fait, elle prend de plus en plus de temps de parole. Et il s'avère que ce club qui était réservé aux hommes parce que les filles se déshabillaient devient un club pour les femmes parce que les femmes viennent écouter les sketchs que Mitch fait. Et c'est des sketchs pour les femmes, en fait. Et l'endroit change totalement. Il n'y a plus des vieux... des vieilles personnes pas ouf en train de regarder des filles en train de se déshabiller, tu vois. C'est vraiment... elle arrive sur scène et il y a plein de filles qui sont en train de rigoler. Ils se mettent à servir des cocktails pour les femmes qui ne faisaient pas avant, enfin des choses comme ça. Et ça devient un endroit vraiment super incroyable. Et j'ai trop aimé. Et j'espère que ce lieu va continuer à vivre parce qu'à la fin de la saison, malheureusement, la police débarque. Parce que c'est un lieu illégal, en fait. Ils n'ont pas le droit d'exister. Ils n'ont pas de truc d'alcool.
Tu peux valer une licence.
Ouais, de licence d'alcool et tout ça. Et puis, le grand final est super émouvant. Il y a un des persos qui s'appelle Lenny Bruce, qui est aussi un mec qui fait de l'humour, qui est proche de Midge depuis la saison 1. Et lui, il a la chance de pouvoir jouer dans une grande salle. Et il lui dit en gros qu'elle pourra jamais jouer dans cette salle si elle continue à faire l'humour qu'elle fait actuellement. Parce que tu peux pas jouer dans une grande salle si tu respectes pas les règles, on va dire. Mmh. Ou si, Et en gros, il lui fait une grande tirade. C'est super émouvant et... Et c'est incroyable, il est incroyable, ils sont incroyables, et j'ai envie de voir la suite. Et voilà. Je pense qu'il y aura une saison 5, c'est même sûr. Je pense que c'est une série qui marche super bien. Et c'est dispo sur Prime, si vous voulez regarder. Franchement, regardez la saison 1, vous allez être mort de rire, la 2, la 3, toutes les saisons. Damien, toi qui aimes le stand-up, regarde cette série.
Je l'envisagerai.
Envisage-le, sérieusement.
T'as vraiment pas le choix.
Pas le choix.
Il y a bien une saison 5, je check en même temps.
C'est pas très étonnant.
Mais voilà. On te laisse la parole, Mathilde, avec une autre série sur Prime Video.
Oui, toujours sur Prime. J'ai fait un marathon, presque, parce que j'ai une série que je n'ai pas finie encore. Je vous en parlerai le mois prochain. Alors là, on parle de As We See It. En français, je crois que c'est À travers vos yeux ou leurs yeux.
Oui, c'est à peu près ça.
À travers deux marches.
Nos yeux. Je sais pas trop.
Ah oui, nos yeux, c'est sans doute plus ça.
À travers nos yeux, vos yeux. Enfin, en gros, voilà.
Allons voir comment on traduit les Québécois.
Du coup, j'ai regardé la saison 1 qui fait 8 épisodes de 32 minutes. C'est sorti le 20 janvier 2022 et, comme on l'a dit, dispose sur Prime. Ça parle de Jack, Harrison et Violette qui sont des colocataires d'une vingtaine d'années atteints d'autisme. Ils s'efforcent de trouver et de garder un emploi, de se faire des amis, de tomber amoureux et de naviguer dans un monde qui leur échappe. Avec l'aide de leur famille, de leur coach de vie et parfois même les uns des autres, le trio tente de trouver leur chemin vers l'indépendance. Et c'est l'adaptation américaine de la série israélienne qui s'appelle On the Spectrum, qui est sortie en 2018. Alors, j'ai pas du tout regardé la série israélienne, mais en tout cas, cette série, c'est un bijou. Enfin, vraiment, j'ai un énorme coup de cœur pour cette série. Merci Damien, coup d'épaule aussi, ça marche aussi.
Ah, c'est toi qui écris coup d'épaule ? Je me dis depuis le dernier, je dis, mais ça veut rien dire, coup d'épaule.
C'est une série sur l'autisme qui est réaliste pour une fois. L'autisme n'est pas vu comme un super pouvoir ou une compétence cool, mais comme ce qu'il est avant tout un handicap. Ça change vraiment de... Comment elle s'appelle la série ?
Good Doctor.
Ouais, Good Doctor par exemple, où le personnage principal est censé être atteint d'autisme, oui. Et c'est clairement un super pouvoir.
Après,
t'as l'impression...
Oui, on voit quand même qu'il est handicapé au quotidien.
Ouais. Ouais, mais
pas
ça
non
reste
plus en mode ouais, il est juste trop fort, il a une super mémoire, c'est fou, il est autiste.
Ça ouais, lui sert quand même d'être un super médecin.
Ça fait quand même en mode c'est un super pouvoir.
C'est vrai qu'il y a clairement un truc où il fait des visions 3D qui sont
ouais.
Il y avait ça rend presque son handicap
un peu
cool.
Ouais, vraiment cool. Il y avait aussi Atypical qui parlait de l'autisme qui était déjà un peu un plus peu... réaliste même si il y avait encore des choses un peu étrange, mais le côté d'Atypical, c'était pareil. Ça lui donnait un talent fou en dessin, par exemple, et c'était un artiste incroyable. Enfin, il y avait encore ce petit côté, genre, ouais. On peut trouver de la coolitude dans sa façon d'être. Parce qu'il était autiste, et en même temps, il était un peu geek, donc, tu vois, ça faisait ce rapprochement. Mais là, vraiment, cette série n'aborde pas les choses comme ça. Déjà, le truc qui est intéressant, c'est que les différents personnages ne sont pas atteints des mêmes troubles de l'autisme, si je peux dire, ce qui permet de voir un spectre varié et large de l'autisme. Par exemple, Harrison, il n'aime pas les bruits forts, donc il porte souvent un casque, il ne peut pas sortir dans la rue. Donc ça, c'est lui, il a ce problème-là. On a d'autres. Violette, elle, elle n'a pas l'impression d'être autiste, en fait. Donc elle essaie toujours de faire les choses normalement et elle ne se rend pas compte qu'elle ne les fait pas normalement. Et Jack, pareil, lui, le chose qui est incroyable, c'est qu'il disait, à un moment, il rencontre quelqu'un, et au bout d'un moment, il lui dit, mais mon père vous a dit que j'étais autiste, mais est-ce que vous l'auriez su si on ne vous l'avait pas dit ? Tu vois, ça les inquiète, en fait, ce genre de choses. Et lui, pareil, il essaie tout vraiment de faire... pour lui, il est normal, et il n'est pas autiste. Enfin, c'est vachement... Enfin, ils ont tous des troubles particuliers qui sont très très différents et des façons de réagir et d'être très différents. Donc ça permet de voir vraiment que c'est l'autisme, c'est un mot, mais pour des choses qui peuvent être très variées. Et c'est plutôt intéressant. Cette série est également réaliste parce qu'elle met en scène des acteurs qui sont autistes. Alors je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais à ma connaissance, en fait, c'est la première série... de ce genre-là que, enfin, moi, j'avais pas vu de série
en France. Il y a une série française qui s'appelle, je crois, Le Vestiaire, qui était produite par France Télévisions, dont les personnages étaient atteints de handicap et joués par des personnes handicapées.
Moi, je trouve ça vraiment cool pour le coup. ça met du réalisme dans ce qui se passe à l'écran, et puis ça permet aussi à ces personnes qui sont acteurs, en fait, de pouvoir avoir des rôles à leur portée. La série est parfois dans ce qu'elle montre et raconte, enfin, est parfois dure dans ce qu'elle montre et ce qu'elle raconte, mais c'est aussi ce qui la rend vraiment belle, si je peux dire. On a les différents personnages, des fois, qui font des crises de nerfs, leur façon de réagir aux différentes situations. Ça peut paraître vraiment difficile, mais ça montre la réalité. Franchement, moi, je saurais que vous recommander de regarder cette série. Franchement, je suis passée, des fois je rigolais, des fois j'avais les larmes aux yeux, et je trouve ça pas mal, parce que je pense qu'on peut aussi un peu se retrouver dans les différents protagonistes, que ça soit Jack, Harrison, Violette, ou dans leur famille aussi, qui sont incroyables, enfin ils sont tous vraiment super attachants, et c'est vraiment un véritable cadeau, cette série. Et je terminerai pour dire que ce programme nous rappelle que la société est faite pour les personnes qui sont neurotypiques, et qu'il est très difficile pour les personnes et qui sont neuro-atypiques de trouver leur place dans cet environnement, car ils souhaitent avant tout être normal. Mais on va finir cette petite tirade par cette phrase qui est issue de la série et d'un des personnages qui s'appelle Douglas, qui est autiste et qui parle avec Violette à un moment et qui lui dit « En quoi c'est important d'être normal dans ce monde ?» Voilà.
C'est très bien. On va pas rebondir là-dessus parce que ça suffit. Enfin, ça suffit à conclure d'une jolie manière. Mais on te laisse la parole.
Encore. Oh mon Dieu.
Avec une autre série que t'as regardée toute seule.
Oui, en une journée.
Le méga marathon.
Je l'ai regardé en une journée. Alors,
ça veut dire que t'as passé 8 heures.
C'était un marathon.
Parce que c'est 8 fois 60 minutes.
Un marathon retour de vacances.
On change de registre. on laisse le côté émotion au placard. On laisse la société au placard.
Damien n'en revient pas.
Alors, on va parler de la chronique des Bridgerton, la saison 2, qui est composée de 8 épisodes de 60 minutes environ. Je mets environ parce que le premier épisode, par exemple, fait 1h10. Donc, je ne sais pas exactement. C'est sorti le 25 mars 2022. C'est dispo sur Netflix et c'est une nouvelle saison pour cette série. Une nouvelle année débute pour la famille Bridgerton. Après la saison de Daphné, c'est au tour d'Anthony, le frère aîné de la famille, de trouver l'amour. C'est mon résumé. Il est court et il est magnifique.
Mais en même temps, au moins, on comprend.
Bon, on va pas y aller par quatre chemins.
C'est vraiment une nouvelle année ?
Oui, je suppose. Enfin, une nouvelle saison, tu vois, au moins. Oui. En fait, il y a la saison mondaine. La saison mondaine, il y avait l'été. Nous, ils nous ont pas montré l'été, et là c'est la rentrée, on va dire, et la saison mondaine reprend.
Ok.
Ça se passe comme ça. Alors, je ne serai sûrement pas la seule, mais enfin non, je serai peut-être la seule plutôt, mais j'ai préféré cette saison 2. Ouais. Mmh. Je pense que je vais me faire tabasser par tout le monde.
J'ai vu des avis qui étaient comme toi.
Même si l'histoire entre du coup les deux personnages principaux qui sont Kate et Anthony est super prévisible, et que du coup elle manque clairement d'intérêt, parce que même si au début on est là, oh bah ils vont se finir ensemble, ils vont pas finir ensemble, bon, bah, ils vont finir ensemble, hein, tout le monde le sait, même s'il y a 50 enfin même s'il y a 8 épisodes entre le début et la fin, le final est le même. Mais il y a des choses positives, vraiment. Bon, déjà il y a un nouveau perso qui est incroyable, c'est Newton le corgi. Clairement, c'est lui la star.
Il était déjà la star sur le poster.
Il était la star, il était au centre, il était là.
Mais les corgis, ça prend de la place.
Sa première apparition, c'était lui la star, c'était sûr. Le deuxième bon point, c'est Simone Ashley, qui joue Kate Sharma, du coup, dans cette série, et qui était également au casting de Sex Education, mais elle avait un rôle secondaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez qui c'était.
Bah non, parce que je n'ai pas regardé.
Moi, j'ai regardé qui c'était, et oui, je vois qui
vous voyez, enfin... Une actrice... Non, vous voyez pas ? Ok.
Mais si, bon, on voit.
Si, tu vois. Et mais du coup, elle est incroyable dans ce... Du coup, là, pour la saison 2, elle a un rôle principal et elle tient vraiment la route. Enfin, elle est top, topissime. Enfin, moi, j'étais bluffée. Donc ça, c'était pour les points positifs. On n'a pas vu le duc. C'est également...
C'est positif ou négatif, ça ?
Alors moi, je t'avoue que vu qu'on l'avait trop vu... Enfin, on l'avait beaucoup, beaucoup vu dans la saison 1... Bah, c'est positif dans le sens où on le voit pas, donc on passe à autre chose. Mais je pense que ça a dû décevoir beaucoup de monde. Et c'est peut-être un peu chelou au niveau de l'intrigue, tu vois. Parce qu'on voit Daphné, qui est censée être sa compagne, on voit un peu leur bébé, mais de temps en temps, elle est presque jamais avec son bébé. C'est comme si elle l'abandonnait la moitié du temps.
Bah, c'est triste.
Mais lui, on le voit pas du tout. Alors, deux hypothèses.
Peut-être qu'il est mort.
Deux hypothèses. Soit...
Il s'est fait kidnapper.
Non, soit, en fait...
Il est en prison.
Il voulait pas que le...
trois hypothèses.
Non, il voulait pas que ce perso soit là pour éviter de voler la vedette à Anthony, qui était c'est le personnage principal de cette saison. Qui est le frère aîné des Bridgerton. Il voulait que ça soit en gros lui le beau gosse de la saison. Mm-hmm. Du coup, ils ont demandé à l'autre de pas venir. Ou soit c'est l'acteur qui a pas voulu revenir. Je
ne
sais pas.
Était occupé. Peut-être il était juste occupé.
Ou peut-être occupé, mais c'était son premier rôle, je crois, dans la saison 1 de Bridgerton. Donc je suis pas sûre qu'il ait fait grand-chose.
Mais
depuis.
Maintenant, il fait. S'il va être dans un film.
Ah bah peut-être qu'il était occupé. Mais en tout cas, il était pas dans cette saison 2. C'est comme ça. J'ai apprécié l'intrigue autour des sentiments d'Anthony, le fait qu'il ait perdu son père. Alors, je vais expliquer un truc super compliqué.
Dans une forêt.
Non, le fait qu'il ait perdu son père et qu'il ait peur de trouver l'amour. En fait, c'est un truc qui est lié. Son père est décédé et quand son père est décédé, il a vu que sa mère, elle partait complètement en vrille, tu vois. Parce qu'elle était tellement amoureuse de son père qu'elle était vraiment rongée par le chagrin. Et du coup, lui, il s'est dit, oh mon Dieu, mais il faut jamais que je tombe amoureux parce que si un jour la personne que j'aime, elle décède, mais... Ça va être horrible, tu vois. Il voulait pas ressentir tous ces trucs négatifs. Du coup, bah, il était clairement traumatisé. Et il voulait pas trouver l'amour. Lui, il voulait trouver une femme. Une femme sympa. Voilà, c'est tout. Mais il voulait pas du tout l'aimer, tu vois. Bon, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Mais en tout cas, le truc positif, c'est que par rapport à la saison 1, qui était très ancrée sur les relations physiques, et tu vois, vraiment, et bah, cette saison 2... Elle a, avec le personnage d'Anthony, ils sont partis sur quelque chose de totalement différent qui était vraiment plus psychologique. Et même si, évidemment, les deux protagonistes étaient très attirés l'un et l'autre physiquement, et ben, y avait d'autres choses qui rentraient en compte. Et donc, c'était plutôt intéressant. Et comme je le dis, il n'y a pas de scène... Enfin, si, il y a peut-être deux scènes de sexe, je crois, à la fin des épisodes. Enfin, comparé à la saison 1, on est très très loin de...
Tout le monde est tout le temps tout nu.
On est très très loin du quota de la saison 1. Mais moi, j'ai préféré donc, à voir ce que ça donnera pour la saison 3. Je crois que déjà, ça a été renouvelé au moins pour une 3, une 4, il me semble. Et l'autre point positif, la musique, elle est toujours... top, visuellement les costumes ils sont trop beaux et les décors aussi, ça m'a donné envie de lire les livres, même si j'ai un bémol parce que apparemment cette saison 2 aurait pris énormément de liberté par rapport au tome 2 du bouquin, donc moi j'aimerais bien les lire pour comparer. Voilà, c'était sympa.
Tu le vends beaucoup moins motivé que celui d'avant quand même.
Que quoi?
As We See It.
Bah, on n'est pas sur les mêmes thématiques. Hein. Quitte à choisir, regardez As We See It quand même.
Quitte à voir et puis c'est que 60 minutes ouais, devant
c'est...
vous.
Et puis c'est que 32 minutes. Hein. C'est des épisodes
c'est
30 minutes,
minutes
As We See It.
Non, non. Là, c'est trop long.
Quitte à choisir, choisissez quelque chose qui est quand même... Qui
apporte quelque chose.
Je ne sais pas si ça apporte quelque chose, mais ça c'est important. Je trouve que c'est important.
Si. As We See It, ça a complètement apporté
quelque
chose. Ouais,
mais je trouve que c'est important. Alors que Bridgerton, oui. Bridgerton, c'est vraiment c'est le divertissement. Ouais, c'est comme si on allait voir... qu'est-ce qu'on pourrait aller
les
voir au
l'amour.
Cinéma qui serait du même quota que Bridgerton.
Je suis vraiment nul en film. Un film
de Noël.
D'époque, donc du coup...
Ouais, un bon film de Noël, ouais. On n'en est pas loin. Je pense qu'on n'en est
pas
loin.
Il n'y a pas de film de Noël au cinéma.
Bah, on pourrait dire Downton Abbey, mais Downton Abbey, c'est quand même vachement mieux que Bridgerton.
Ça a l'air beaucoup plus réaliste, historiquement.
Oui, et puis il y a des choses très fortes dans Downton Abbey qui sont par exemple la lutte des classes. Enfin, il y a des choses, des trucs de société très importantes, ce qui pour le moment n'est pas trop le cas dans Bridgerton. Le seul thème qui commence à émerger, ça serait le féminisme, grâce au personnage de Héloïse, qui est la sœur qui est après Daphné, qui elle aussi fait son entrée dans la haute société à ce moment-là, mais qui, elle, refuse de trouver un mari. Enfin, elle fait pas du tout les choses comme les autres. Et d'ailleurs, elle se lie d'amitié avec un imprimeur qui est pas du tout de sa classe, tu vois. Donc,
un imprimeur.
Ouais, juste un imprimeur. Alors, pas du tout. Et elle va
faire des belles cartes de mariage.
Et elle va avec des réunions. Elle va à des réunions avec des personnes qui sont contre la royauté et la monarchie.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, tu vois,
aïe, aïe, aïe,
aïe,
aïe. Est-ce que c'est pas un peu comme Outlander? Une série historique.
tu veux vraiment me lancer dans Outlander?
Non.
Si, si Bridgerton pourrait être un rapport avec Outlander. Sauf que dans Outlander, il y a des il y a beaucoup de scènes de sexe, mais il y a pas mal de scènes de viol aussi. Et
ah cool.
C'est un peu trauma.
C'était pas pour ça. Que je...
Un peu trauma.
Est-ce que Outlander, du coup, c'est pas un mélange de Game of Thrones et de Bridgerton?
Non, parce qu'il y a du voyage dans le temps aussi.
Et du visiteur du futur. Le crossover improbable.
Un peu bizarre.
Eh, mais c'est vrai parce qu'il y a une histoire de famille aussi dans Outlander, bien. Très poussée.
Voilà.
Outlander, c'était quoi les trois? Bridgerton. Ouais. Pff,
je... Le visiteur du futur, mais ça marche avec les visiteurs.
Oui, oui, c'est vrai.
Bah, c'est pas très humoristique quand même, Outlander.
Ah.
On n'est pas dans l'humour.
Dommage.
On n'est pas là pour rigoler.
On n'est pas là pour rigoler.
On n'est pas là pour être ici. On va passer à la série suivante que Mathilde et moi avons regardée. Il s'agit de Pam et Tommy, une mini-série dispo sur Disney+, qui compte 8 épisodes de 32 à 51 minutes. Le format n'a aucun sens. C'est sorti entre février et mars 2022. C'est donc une nouveauté. Et le résumé est le retour sur le scandale de la sextape du couple star des tabloïds des années 90, la star d'Alerte à Malibu, Pamela Anderson, et le batteur de Motley Crue, Tommy Lee.
Mais Motley Crue, c'est pas du tout connu.
Bah, pas chez nous, mais
dans
chez
les années
eux
80,
ouais.
Fin 80. Enfin,
mais je pense que ça dépend du pays. Je pense
oui,
que les États-Unis,
plus, ouais.
C'est beaucoup plus connu qu'ici.
C'est la première fois que j'entends ce nom.
Ouais, moi aussi, je connaissais pas.
Je commence parce que t'as rien écrit, Mathilde.
Moi, je pensais rebondir.
Ok.
Telle la balle que je suis.
Et ben moi je m'attendais à une série vraiment très con-con, un peu vulgaire, un peu trashos, et en fait c'est le cas pendant les deux premiers épisodes, parce qu'il y a quand même un mec
qui est sous drogue
et qui parle à son zizi.
Et le pénis le répond.
Oui, oui, en fait vraiment il y a un dialogue avec un zizi et un monsieur. et puis d'un coup, la série se politise, elle devient féministe, et je la trouve assez juste dans son discours. Et puis la fin gâche tout, parce que ça explodit plein de choses. Il y a plein de trucs qui sont beaucoup trop traités vite, tout est conclu beaucoup trop vite. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne surprise. La réalisation est assez particulière, c'est rempli de zooms. Il y a des zooms tout le temps.
C'est peut-être un hommage au truc des années 90, je sais pas.
Je sais pas. Je sais pas. C'est même pas des zooms, c'est des travelling. Mais la série baigne justement, Damien, dans les années 90. C'est une ambiance full 90. Ça joue énormément avec la révolution de cette décennie, qui est Internet. Et c'est très drôle. Internet est pratiquement un personnage de l'histoire dans cette série. C'est super marrant parce que la série prend un malin plaisir à faire galérer tous les personnages avec Internet. Genre faire une simple recherche.
Alors que maintenant, tout le monde est très à l'aise avec
Internet. Non, mais tout le monde sait faire une recherche sur Google. Oui, dans vrai. La série, c'est...
Déjà, juste brancher l'ordinateur, c'est...
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, compliqué. Ça, c'est très rigolo. Personne n'a son ordinateur branché.
Genre, ils ont des ordinateurs, mais après, ils disent « Attends, on va l'installer.
» C'est très marrant. Parce que quand il faut aller chercher la sextape, ben là, tout le monde le branche.
Et ça va être « tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu » pour voir Internet.
Le duo d'acteurs et d'actrices est bluffant, surtout Lily James qui s'efface,
qui jouait dans Downton Abbey.
Oui, c'est vrai, mais je ne connais pas. Elle devient Pamela Anderson. Elle est hyper maquillée, mais elle est Pamela Anderson. Elle est bluffante. Et Sebastian Stan, il est un cran en dessous, je dirais, déjà en termes de grimage.
Disons que son personnage est détestable aussi, ça aide pas à s'y attacher.
Il est un coup détestable, un coup très mignon.
Bah en fait,
c'est un connard.
Je pense que c'est
mignon.
Ça. Le problème, c'est qu'il est, enfin, il est presque trop bien pour le rôle. Enfin, il est trop.
Ah oui, l'acteur.
Enfin, l'acteur est trop. Moi, je trouve. Enfin, je suis trop attachée à lui. Du coup, j'ai du mal à le détester. Il est trop. Bah, je dirais pas propre sur lui parce que il quand même, mais je sais pas comment expliquer, mais ouais.
Il aurait fallu, comme Lily James, un acteur avec un visage un peu moins connu, un peu moins populaire.
Ouais, mais même, je trouve qu'il est vraiment trop beau pour son. Enfin, le mec est trop beau gosse pour le rôle. Hein.
Je savais pas que c'était lui.
Si, c'est lui. Non, mais il est même trop. Enfin, il est trop beau gosse pour le rôle aussi. Enfin,
c'est vrai aussi.
Il en fait un mec au-dessus, tu vois.
Ouais. En tout cas, les deux sont extrêmement attachants. C'est un peu comme deux enfants qui sont envahis par la naïveté de l'amour naissant. Et des fois, en fait, on les voit et ils se font juste des papouilles sur le lit. Mais c'est trop mignon. Mais par contre, la fin de leur idylle dans la vraie vie est très sombre parce que Tommy Lee a été violent. Donc, voilà. Et la série le dit pas. Dit juste que les deux se sont séparés. Ah si, elle le dit. Elle le précise, mais en gros, moi j'ai l'impression que la série raconte pas la vérité. Genre pour pas entacher la vision du couple un peu
iconique,
mignon,
ouais.
Iconique. Mais du coup, c'est dommage parce que ça raconte pas la vérité. Et pourtant, c'est important. Justement parce qu'en plus, je trouve que la série, elle met un point d'honneur à défendre Pamela Anderson qui... dans toute cette histoire de la sextape qui a fuité, elle est vraiment présentée et ça insiste très bien de dire c'est la victime de cette histoire. Sa réputation a été entachée, elle a perdu sa carrière, elle a perdu son couple, elle a un peu tout perdu et elle a vraiment été humiliée par tout le monde, autant par le public que par la presse, que par la justice. Il y a l'épisode 7 justement qui est hyper dur à regarder. C'est un épisode très court où elle témoigne justement après avoir porté plainte suite à la fuite de la sextape. En fait, elle est la plaignante, elle est la victime du cambriolage et de ça. Et en fait, la personne qui l'interroge parle comme si elle était la coupable parce qu'elle s'est filmée nue. En fait, enfin, c'est terrible à regarder.
Ouais, c'est des questions du genre à quel âge avez-vous pris vos premières photos érotiques ? Enfin, et encore, ça, c'est gentil, tu vois. C'est des questions comme ça qu'il lui pose.
La question, comme elle est racontée dans la série, est pire. C'est à quel âge avez-vous montré vos parties génitales, un truc
ouais,
comme ça. C'est terrible.
C'est vraiment humiliant.
Mais
je trouve que même plus loin que ça, c'est la série nous parle de deux hommes qui se sont pas entendus et du coup Tommy Lee a été vraiment un connard, hein, c'est le cas de le dire, avec un de ses employés. Et le mec, pour se venger, a été chez lui et lui a volé son coffre-fort. Tu vois. Enfin, c'est ça l'histoire. Et en fait, ça parle juste de deux mecs qui avaient des égos tous les deux importants et aucun n'a voulu plier. Et en fait, elle s'est retrouvée, il a trouvé cette cassette, il l'a publiée et à aucun moment, il a pensé à elle. En fait. À aucun moment, il s'est dit « Oh, bah attends, il y a une femme sur cette cassette, en fait. » Non, lui, il s'est dit... je vais me venger de Tommy grâce à ça. Et en fait, Tommy, il en a rien à battre. Enfin, je sais qu'on ne dirait pas, mais il en a rien à battre.
Non, vraiment. Enfin, en fait,
c'est presque un honneur. Enfin, pour lui, enfin, tout le monde le félicite quand
série,
il passe dans la rue.
La série montre ça. En fait, c'est le mec qui a réussi à coucher avec Pamela Anderson. Enfin, il est marié avec elle, mais il a couché avec et du coup, enfin, c'est le champion, quoi. Parce qu'à cette époque-là, Pamela Anderson, elle fait sans doute partie des. Enfin, elle a la réputation d'être une des plus belles femmes du monde, c'est une sex-symbole, etc.
Ouais, elle a posé pour Playboy, choses comme ça. Alors du coup, elle a pas une image très... elle a une image sexy, une image de... Comment on peut dire...
De bimbo.
Ouais, de bimbo, tu vois. C'est pas la femme avec qui tu te maries. C'est pas comme ça que la voit tout le monde.
Alors que la série la présente comme une femme qui a envie d'avoir une famille, qui a envie de se poser, qui a pas envie de garder cette image de fille sexy. Elle veut quitter Alerta Malibu, en fait, toute cette histoire arrive au moment où elle veut plus faire Alerta Malibu pour tenter une carrière au cinéma.
Ouais, ou même elle a des propositions. Elle essaie de faire monter cette série, en fait. De genre,
en plus, ouais.
Elle veut genre qu'elle ait avoir plus de dialogues, avoir des monologues, tu vois, des choses plus sensées, plus sentimentales pour donner des sentiments au public, quoi. Et à chaque fois, on lui casse son truc. On lui dit non, c'est trop de texte. Non, attends, on va mettre la caméra derrière ton cul, tu vas courir sur la plage et ça va le faire.
Et on va remonter un peu ton maillot pour qu'on voit.
Et ouais, et du coup, il passe 15 minutes à mettre son maillot correctement sur l'arrêt de ses fesses pour qu'on voit bien ses fesses. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est d'une violence. Moi, je trouve vraiment que c'est d'une violence sans nom.
C'est terrible.
Et elle essaie de se dépatouiller de ça, mais à côté de ça, elle est aussi. Enfin, c'est la société qui fait ça, tu vois. Et on sait que même à la fin de cette série, elle n'a pas été. Ça n'a pas trop changé. Je crois qu'elle a eu 10 maris différents.
Oui,
sentimentalement, c'est une personne qui a vraiment beaucoup... Elle fait confiance aux mauvaises personnes, quoi. Elle n'arrive pas à juger correctement les gens, je pense. Mais c'est plutôt triste. Et oui, je suis d'accord avec toi sur le final, sur le fait que... en fait, le problème, c'est que... C'est ce que je disais au début, comme l'acteur qui joue Tommy, il est trop propre sur lui et que c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, et ben il y a beaucoup de moments où on a de la tendresse pour lui, ou alors on dit il est pas si méchant, ou il est pas si, enfin, et en fait la réalité des choses, c'est que le vrai Tommy Lee dans la vie était un connard, et il a vraiment frappé Pamela Anderson, et c'est pour ça qu'ils se sont séparés. Et enfin, il a porté plainte. Enfin, c'est des vraies histoires. Il y a eu vraiment des choses concrètes. Et la série en parle pas du tout parce que je pense qu'il voulait pas, noircir le couple. Mmh. Et c'est vraiment décevant.
Après, y a pas une suite du coup, si
non c'est une mini-série, donc c'est fini. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai envie de retenir de cette série, c'est un petit peu qu'elle essaye de, alors, redorer l'image, c'est pas très bien, mais de rendre justice, voilà, ça c'est mieux, à Pamela Anderson. Et de dire que c'est pas la fille qu'on croit qu'elle est. C'est une fille qui est bien, bien plus intelligente que ce qu'on pourrait percevoir et qui mérite une meilleure, un meilleur regard des gens. Mmh. Et ça me fait penser à la mini polémique qu'il y avait quand c'est sorti, où les gens disaient cette série devrait pas exister, je vais la boycotter parce que Pamela Anderson n'a pas donné son accord. Alors, d'une part, heureusement qu'on n'est pas obligé de demander l'accord des gens pour faire des biopics. Et en plus, je crois que l'estime des gens pour Pamela Anderson n'a jamais été aussi haute qu'après qu'on l'ait visionnée.
C'est mon cas. Moi, j'ai vraiment l'image de la bimbo. Alors que finalement, non. Et puis, sortie de Pamela Anderson, il y a aussi d'autres personnages. Je pense à la femme du mec là qui fait le cambriolage.
Le cambrioleur. Ouais. Oui.
Elle, on la voit pas beaucoup, mais pareil, elle montre une vision aussi. Je trouve qu'il y a un truc qui est important aussi dans cette série, c'est un peu la vision du monde de la pornographie dans les années 90 et comment ça a explosé avec Internet. C'est aussi une thématique super importante. Mais le fait que elle, ça soit une actrice. Une actrice porno qui, au final, se met en couple avec une femme.
Oui.
Enfin, je trouve que c'est des... Même si, en fait, c'est pas l'histoire principale, je trouve que c'est des trames qui sont aussi importantes à penser. Et je trouvais que c'était vachement intéressant aussi de les montrer comme ça.
Bah moi, je rebondis juste à ça rapidement. J'ai eu l'impression que le porno était assez bien traité, un peu en arrière-plan tout le temps, mais qu'en gros, ça montre d'une part que c'est une industrie
d'hommes.
Faite par les hommes pour les hommes.
Ouais.
Que les femmes sont que des objets ou des produits, et alors que elles sont intelligentes et elles sont conscientes de le faire, en fait. Et quand elles n'ont pas envie, elles le disent, mais elles sont parfois pas écoutées. C'est vraiment pas le sujet de la série.
Ouais, mais
c'est
comme
bien
ça
fait.
En fait partie, je pense que
ça baigne vraiment là-dedans.
Ça
baigne
dedans, ouais.
Mais c'est plutôt bien fait comme discours en arrière-plan. Enfin voilà, très bonne surprise, ce Pam et Tommy. On va changer totalement d'ambiance.
On redescend au niveau âge.
Au niveau âge et à peu près au niveau ambiance aussi.
Oui, non, on va dans du wouhou, wouhou. On va parler de Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, la saison 4 qui compte 26 épisodes d'environ 25 minutes. Et la fin de la diffusion a eu lieu fin mars, autour du 20 mars, il me semble. Et c'est dispo sur Salto, c'est une nouveauté et ça a été diffusé sur TF1.
Pendant T'es fou.
Pardon,
je me suis vraiment trop ambiancée.
Alors, pour rappel, Marinette et Adrien sont deux collégiens comme les autres, à la différence près qu'ils ont été choisis pour sauver Paris. Leur mission, capturer les Akuma du mystérieux papillon qui transforme les Parisiens en super vilains. Grâce à leur Kwami, petite créature magique, les deux adolescents se métamorphosent en super-héros. Réussiront-ils à sauver Paris et cette terrible menace ?
Non mais le méchant il s'appelle Papillon, c'est pas possible.
Non
ça,
c'est non. Cool en vrai Papillon
non.
Comme
mais non c'est un nom gentil, tout le monde aime les papillons.
Mais c'est parce qu'en fait le méchant tire son pouvoir d'un Kwami qui est le Kwami du papillon. C'est comme ça, enfin Ladybug son Kwami c'est le Kwami de la coccinelle. Elle s'appelle Ladybug, c'est comme ça.
C'est
et même que dans cette
Dark
saison,
papillon.
D'ailleurs dans cette saison 4, c'est le méchant a le Kwami du papillon et un autre. Et du coup, il l'appelle plus Papillon, il l'appelle Papy Ombre, je crois.
Papillon. Bon.
Parce que du coup, c'est
papillon-ombre,
un.
Ça fait une
c'est
autre
un
ambiance.
Amalgame de Kwame.
On dirait une vieille ombre.
Papillon, c'est vraiment dark papillon, par contre.
Ouais, c'est un peu ça. Donc, bon, cette. C'est...
Le bon de. Laissez-moi
bon,
parler.
Laissez-moi parler. Bon, vous le savez peut-être pas, mais je suis une fan inconditionnelle
bah
de Miraculous
parce que
Ladybug.
Parce t'en as déjà parlé.
Ah ouais, bah je suis une fan inconditionnelle de Miraculous Ladybug. Mon fond d'écran de téléphone est Miraculous Ladybug. C'est même la scène finale de cette saison 4 qui est incroyable.
C'est vraiment pas
que d'émotion.
Podcastique.
Ah bon
bah, de parler de ton.
C'est un fanard. De la saison 4.
Encore moins.
Ah, mais allez, c'est génial. Bon, oui, en gros, j'adore cette série. Par contre, petit coup de gueule. TF1, on n'est pas des biquettes.
Des jambons.
On n'est pas des biquettes TF1.
Des courgettes.
Veuillez, s'il vous plaît, respecter les choses. Respecter les gens qui travaillent sur les aventures de Ladybug et Chat Noir. Ça veut dire, veuillez diffuser les épisodes dans l'ordre établi par le studio qui vous les envoie. Ne diffusez pas les épisodes n'importe comment. C'est énervant et ça rend fou. Ça rend fou parce que j'ai dû regarder 50 fois quel était le sens pour regarder correctement les épisodes. Et il y en a que j'ai pas vu au bon endroit.
Ils enlèvent les critiques des forces de l'ordre aussi.
Oui, ils censurent des épisodes.
Ils censurent des épisodes. Mais où allons-nous ? D'ailleurs, j'ai regardé l'épisode et je me disais, mais je comprends pas, il manque un bout.
Ah oui.
Il y a des gens qui montent dans un bus pour arrêter cette dame qui n'a pas de ticket, alors qu'elle a un ticket, hein. C'est juste que le Marinette, elle a raté le bus deux arrêts plus haut. Et on lui dit, madame, et enfin la dame lui dit, moi j'ai un ticket, mais c'est ma fille qui l'a, elle va arriver. Et bah, 2 minutes plus tard, on a sa mère qui est transformée en Akuma qui est en train de tabasser tout le monde. Et elle se fait poursuivre par plein de bus de CRS. Non mais sérieux.
Ça c'est parce qu'il y a Darmanin qui appelait avec ses petites mains. Les policiers, ils font jamais ça. Vous enlevez
ah
ce
là
morceau
là. Ah là
là
là. Bon écoutez, ça a été enlevé. Mais non, mais en fait, la diffusion c'est quand même le truc le plus embêtant, je trouve.
Bah c'est insupportable.
C'est vraiment très 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 insupportable.
Après la télé, elle chouine en disant plus personne nous regarde. Tout
c'est
monde
vrai.
Va sur les plateformes.
Et bah, puis même si je sais que c'est un programme pour enfants, enfin.
Les enfants méritent mieux.
Bah, c'est pas que les enfants méritent mieux, mais il y a vraiment une communauté importante de femmes autour de Miraculous. Et je pense que ça déçoit tout le monde, quoi. Ils vont se mettre les gens à dos. Les gens vont aller télécharger ces épisodes. Ils vont pas vouloir aller la garder sur leur plateforme.
Personne
ne ferait ça. Bah, tu parles, tout le monde fait ça. Au bout d'un moment, quand t'as pas les épisodes dans le bon sens, t'en as marre.
Et toi, tu les as regardés sur quoi ?
Sur Salto, ils étaient en replay.
Bien joué.
Donc, continuons. Oui, dans cette saison, le fil conducteur est moins visible. Donc les épisodes se suivent moins. Surtout au début, il y a plus d'épisodes uniques avec juste un méchant, et puis ça se dénoue, et puis un autre méchant, et puis voilà. L'arc narratif est moins présent. Mais il y a quand même des épisodes vraiment violents, quoi, tu vois, genre. qui m'ont brisé mon cœur. Genre l'épisode 19. Qui a créé cet épisode ? Que la personne
studio que t'as défendu toute
Monsieur les gens du studio, ne
Monsieur
brisez pas le cœur des
Monsieur
gens
19.
Comme ça. Monsieur épisode 19 ou madame, ne faites pas ça. Vous m'avez retourné le cerveau. Tout allait super vite dans cet épisode. Je l'ai montré à Emilien, il a rien compris.
Ah, vraiment ?
On était en mode vraiment, mais qu'est-ce qui se passe ? Pour au final naître comme le titre l'indique, qu'éphémère, cet épisode n'a aucun impact sur les autres, il n'a aucun impact et pourtant il s'est passé tellement de choses que les personnages devraient connaître.
On
et
dirait
savoir.
Vraiment un previously. On dirait un résumé
oh
tellement
Dieu.
Ça va vite.
Comment pouvez-vous
peut-être que ça a été un peu redécoupé
comment,
pour peut-être. Passer.
Comment pouvez-vous mettre au grand jour l'amour entre ces deux protagonistes pour ensuite écraser leur mémoire.
Bah, spoil de ouf.
Tout est horrible. Non bah non, ça spoil rien. Enfin bon.
Si jamais t'as jamais vu.
En tout cas, c'était vraiment une bonne saison. Et oh my god, le final était incroyable. C'était un final digne d'Avengers. Le Infini, c'est Infinity War.
Oui.
Hein, ah
oui,
moi je crois que c'est Endgame. Je me suis dit, bah, ça finit bien, c'est cool.
Bah non, ça finit pas bien. Ça finit pas bien. C'est Infinity War, c'est l'Infinity War de Miraculous, cette saison 4. Papillon a gagné, les gars. Je vous spoil, je vous le dis. Papillon
ah
a gagné. Mais Ladybug et Chat Noir n'ont pas dit leur dernier mot. Et
dans le temps.
J'ai tellement, mais vraiment tellement hâte. Je suis surexcitée. J'y pense tout le temps. J'ai trop envie de connaître la suite. La saison 5, je la veux tout de suite. Donnez-la moi. Il me la faut. J'ai été au ski Et j'ai fait acheter.
Quoi, c'est quoi le rapport?
Oui.
Zéro transition, là aussi tu vas trop vite.
Ça, il n'y a pas de transition, mais je sais où elle va.
Je ne vous raconte pas comment j'ai failli acheter une. Comment on appelle ça?
Un pèse.
De chat noir. Je passais devant tous les jours et je me disais, donnez-moi la suite de miracles.
Un truc nul en plastique qui mais donne oui. Des bonbons pas bons.
Mais oui, mais.
Des bonbons pas bons.
C'est très compliqué. Vraiment, j'ai trop envie d'avoir la suite. J'en pleure, quoi. C'est. Pff, regardez cette série. Même si vous aimez pas les chats, regardez cette série.
Les chats?
En tout cas,
les chats noirs.
La suite de notre. Épisode, c'est un animé.
Des animés.
Des animés.
Ouais, alors on commence par Sasaki and Miyano, qui est un animé, un Buzz Love. C'est la saison 1 de 12 épisodes d'environ 24 minutes. La diffusion a commencé le 10 janvier 2022 et elle s'est terminée le 27 mars 2022. C'est dispo sur Wakanim.
Qui n'existe bientôt plus.
Oui, donc ça sera aussi dispo sur Crunchyroll. Ça sera aussi dispo sur Crunchyroll, ou ça doit déjà y être, je ne sais pas. Miyano est un lycéen qui passe tout son temps à lire des Buzz Love. Il va rencontrer un autre élève, un garçon rebelle et plus âgé que lui. Rien ne prédestinait les deux adolescents à se rapprocher, et pourtant. Les gars, un Buzz Love qui parle d'un lycéen fan de Buzz Love, c'est un peu Inception.
C'est un peu méta.
Mais plus cool.
Buzz Loveception.
C'est vraiment trop cool, vous trouvez pas ça trop mignon? Non, enfin si, c'est trop mignon. Alors, reprenons les choses.
Elle pose des questions et elle y répond elle-même.
Visuellement,
Damien, on sert plus à rien.
Journaliste.
Visuellement, l'animation est sympa, mais sympa mais sans plus, tu vois. Faut pas non plus en faire des tonnes.
pareil, elle saute aux tonnes.
On n'a pas fait des tonnes, c'est toi qui faisais des tonnes.
Non, mais c'est juste, c'est une bonne animation. Sasaki et Miyano sont vraiment super attachants, ils sont trop mignons. C'est le titre de l'animé, donc vous vous doutez bien qu'on parle que d'eux tout le temps. On voit que eux tout le temps. Et voilà, ils sont mignons. Je crois qu'ils sont dans un lycée de garçons. Oui, ils sont dans un lycée de garçons. Donc,
Existe encore au Japon?
Ouais.
D'accord.
Enfin, je pense. Mais l'histoire est super méga lente, les gars. Genre, vraiment, il se passe rien la moitié des épisodes. Ce qui crée un rythme vraiment bizarre. Même si je comprends que, en fait, je comprends que la lenteur des épisodes est liée à la création et l'évolution des sentiments des deux protagonistes. C'était vraiment super lent. Et pourtant, je regarde qu'un épisode par semaine. J'avais qu'un épisode chaque dimanche, il me semble.
C'est pour ça que c'était lent.
Non, mais oui, c'était lent parce qu'il fallait attendre chaque semaine. Mais je suis sûre que si je les avais regardés les uns après les autres, j'aurais eu envie d'avoir la suite. Mais en fait, il se passe pas grand-chose dans chaque épisode. Donc c'était très lent.
Ah oui.
Après, je sais que je sais déjà qu'il y aurait une suite à l'animé. Et je sais également que le manga est sorti en France. Ils ont sorti le tome 1 et le tome 2. Il me semble que c'est sorti en mars chez Akata. Et ma question...
Akata Christie ?
Non, les éditions Akata. Et donc ma question est de savoir si... Est-ce que ça va plus vite dans le manga ou pas ? Ça se trouve, tu vois, ils ont fait une saison de 12 épisodes sur les mangas de 1 à 5, tu vois.
Tu vas devoir le lire, mais tu ne pourras pas en parler. Parce qu'on ne parle pas de livres.
J'en parlerai sur Pled si je les lis. Mais pour l'instant, je ne les ai pas lus. On verra. Mais je n'ai pas très envie d'investir. Je crois qu'il y a 16 tomes, c'est long. Donc peut-être deux cases. Peut-être deux cases. À voir. Mais en tout cas... C'était vraiment mignon. Et le thème de base était cool. Hein. Buzz Love qui parle d'un lycéen fan de Buzz Love qui est hétéro à la base, mais en fait qui se rend compte qu'il se met à aimer un autre garçon. Enfin, c'est trop mignon. C'est mimichou tout plein. Et je suis un peu déçue. Mais comme à la fin de la saison, on va dire, ils se mettent. Enfin, je peux vous spoiler, hein, ils se mettent ensemble, mais bon, c'est pas vraiment un spoil. Oh la série s'appelle Sasaki and Miyano. Alors, voilà.
Ça pourrait être Amis pour la vie.
Bah, Amis pour la vie. Du coup, à la fin de la saison 1, ils se mettent ensemble. Du coup, peut-être que la saison 2. Sera plus intéressante. Histoire à suivre.
Ou pas.
On continue ?
Damien, tu crois pas en l'amour ?
Non, pas en Sasaki.
Mais moi, je crois en l'amour. Moi, c'est mon arme, tu vois. Mon cheval de bataille, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, ça se dit.
C'est mieux alors... qu'un chien de bataille, par exemple. C'était prêt, tu sais.
Le prochain anime dont je vais parler s'appelle My Dress Up Darling. J'ai regardé la saison 1, 12 épisodes d'environ 24 minutes. La diffusion a commencé le 9 janvier 2022 et je crois qu'elle s'est finie à peu près en même temps que Sasaki and Miyano en mars, du coup. Et c'était également dispo sur Wakanim. Il y avait un épisode diffusé chaque samedi. Et donc, c'est une nouveauté. De quoi ça parle? Ça parle de Wakane Gojo.
Non, c'est Satori Gojo.
Non, c'est pas ça. Mais oui, j'y ai pensé super.
Le raté.
Je sais pas la ref. Oui. Ça a l'air très drôle en tout cas.
Oh, il s'appelle Gojo aussi, mais c'est pas le même.
Ça fait rire Mathilde que je rate. Voilà.
Moi, ma rêve, c'était. Il s'appellerait pas Wakane Gojo. Mais elle est nulle.
Ah oui, parce que Wakana.
Ah là là. Non, mais en plus, j'ai revisionné Jujutsu Kaisen ce mois-ci, mais je vais pas vous en parler parce qu'on en a déjà parlé. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai dit Wakane Gojo en regardant Damien, forcément, je m'attendais à une blague. Mais non, ce n'est pas le même Gojo. Calmez-vous, calmez-vous.
C'est drôle parce que Gojo, il y a vraiment un mot.
Oui.
Enfin, voilà.
C'est un nom. Alors, Wakane Gojo, qui n'est donc pas Satoru Gojo, calmez-vous, est un lycéen solitaire.
Ni Satori Gojo.
On n'est qu'à la première phrase du résumé.
Stop. Est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer des poupées traditionnelles. Mais
c'est
comme
marrant parce que Wakana, moi je pensais que ça serait féminin.
Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay.
Mais elle s'appelle Marine.
Elle s'appelle Marine, oui.
Mais d'où est ça?
Bah, de France.
Ouais, bah, tu connais... Quoi. Mais tu t'avais pas vu aussi, comment dire, le film d'animation japonaise de Miyazaki qui s'appelle Marine?
Non.
Et bah voilà, il y en a un. Et donc, bah, cette jeune fille, elle a le droit de s'appeler Marine.
Par contre, j'ai écouté l'album Yellow Submarine.
Tu sais ton... Ton chat s'appelle Suki, aux dernières nouvelles, il a jamais été au Japon.
C'est pas faux.
Oh, ça clash.
Voilà.
Par contre, il s'appelle Suki.
Oh, désolé. Mais en fait, j'avais envie de l'appeler Yuki, mais je sais pas pourquoi.
Yukio.
Comme les plantes.
Non, comme la neige. Yuki, la neige.
Oui.
C'est ce qui tombe du ciel. Alors.
On savait hein, ce que c'était la neige.
Le plus de cette série, de cet animé, c'est un animé sur un jeune lycéen qui fait de la couture. C'est cool, ça casse les stéréotypes de genre et vraiment, c'est au top.
C'est vrai.
Le deuxième truc cool, c'est que visuellement, l'animation est trop belle. Les couleurs sont trop jolies et les persos aussi, surtout Marine que j'adore et qui, dans son look trop cool, genre elle est blonde, mais elle a le bout des cheveux roses et elle porte des lentilles roses. Donc on a l'impression que ses cheveux sont assortis à ses lentilles de couleur. Enfin, c'est trop beau. Donc elle est trop cool. Donc on suit Marine et Gojo du coup qui créent des cosplays. Donc en fait ils en créent plusieurs tout au long des 12 épisodes. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit la création de A à Z des cosplays, les questions qui se posent, comment ils travaillent sur le maquillage, les perruques et les différentes étapes, les shootings. Et moi j'ai trouvé ça super cool. J'avais jamais vu d'animé qui parlait de ça et ça m'a appris plein de trucs aussi sur le cosplay que je savais pas du tout.
Comme quoi?
Genre des types de maquillage, par exemple, il y a des gens au Japon qui se scotchent d'une façon les yeux pour augmenter leur regard ou alors faire baisser leurs paupières ou des trucs comme ça. Ça porte un nom, mais je connaissais pas du tout.
Je savais pas non plus. Ouais. C'est amusant de savoir ça.
Et il y a plein de trucs, genre comment faire des fausses dents ou alors quel matériau ils utilisent ou des trucs comme ça. Et
donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est un petit côté réaliste.
Ouais, je pense.
Pas mal.
Donc voilà, je vous ai parlé des trois points super positifs de l'animé. Et bien évidemment, la relation entre Marine et Gojo qui est trop trop mignon. Parce qu'au départ, ils sont juste amis et puis au final, ils tombent un petit peu amoureux. Mais tu vois, ça reste sobre et tout. Ils en parlent pas trop quand même dans la série, dans l'animé pour le moment. Bon, on va passer maintenant au point négatif. Et tapons du poing sur la table. Les gars, vous vous faites un animé pour casser les stéréotypes de genre. Pourquoi vous reprenez tous ces mêmes stéréotypes sexistes qui sont flagrants dans les animés et dans les mangas pour les remettre dans votre animé de façon vraiment forcée? Vraiment. Alors, on a un garçon qui fait de la couture, c'est trop bien. Et à côté de ça, on a des tenues super moulantes. on a des situations super embarrassantes, genre le mec ouvre la porte et il y avait une lycéenne qui est à poil parce que il pleuvait dehors, du coup elle changeait mais il le savait pas, il ouvre la porte et il se retrouve en train de la regarder à poil.
C'est parce que c'est marrant.
Non, c'est pas drôle.
Non.
Non, c'est pas drôle, vraiment. Et du coup, c'est des situations super embarrassantes, c'est triste. Moi, bah, franchement, ça m'a déçu. Après, s'il y a une suite, je regarderai, parce que le côté vraiment cosplay, création de cosplay, cet univers-là est vraiment, vraiment super intéressant. Mais je suis un peu blasée qu'en 2022, bah, on continue à faire des animés aussi, aussi sexistes, en fait. C'est vraiment, vraiment idiot. Alors que ça partait vraiment, le sujet principal partait d'une bonne intention, quoi. Donc je suis un peu déçue.
Faut laisser le temps au temps. Oh, c'est vraiment nul ce que j'ai dit. Non mais je comprends ta colère par contre, vraiment sans blague. On va enchaîner avec Newport Beach. Mathilde et moi vont regarder la suite de notre petit marathon du moment. On a regardé la saison 3 qui contient...
Non, un marathon, il faut tout regarder d'un coup.
En une journée, comme Bridgerton.
C'est ce que vous avez fait là?
Non, bah, pas vraiment, les 25 épisodes de 45 minutes.
C'est même pas possible, en fait.
En une journée, c'était... Bah, si, ça passe, 25 épisodes de 45 minutes.
Non, je pense qu'en 24 heures, ça passe pas.
Bah, il y a 24 heures.
Et... Pas 45 minutes, voire 25. Vraiment, ça doit pas passer.
Bon, on peut passer à la suite.
C'était sorti en tout cas en 2005.
Damien a fait un bac L. Tout, 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 tout.
C'est sur Salto. Alors, j'ai fait un petit résumé. Ryan Atwood, un jeune délinquant, est adopté par la famille Cohen. Avec ses meilleurs amis Seth Cohen, Summer Roberts et Marissa Cooper, il va découvrir la vie vraiment pas du tout reposante de Newport Beach.
Ça fait que 18h75. Ça passe large dans une
journée. 75.
Bah, c'était logique.
Ça fait au moins 19h75. Ça fait au moins 20h déjà.
18h75.
Ça fait 19h.
Bon, admettons 19h, tu dors 5h, tu regardes tout d'un coup et c'est
bon. Mais on l'a pas fait, on n'a pas fait ça.
Pardon d'avoir fait un bac L et d'être quand même...
de savoir me servir de la calculatrice.
Je l'ai presque fait de tête.
Eh ben, moi, j'ai un peu moins aimé cette saison. Elle était moins prenante que les deux premières. Dans les deux premières, je saluais le réalisme des saisons, enfin des scénarios. Et bah, je trouve qu'ici, il y a plein de comportements bizarres qui sont moins justes, qui sont même des fois juste étranges. Et les enjeux sont un peu répétitifs aussi. Et puis bah, néanmoins, les principalement grâce à des acteurs, des actrices toujours aussi attachants, bah, Newport Beach, ça reste un bon moment. Mais je n'ai pas grand-chose de plus à en dire parce que ça serait que de répéter ce qu'on dit depuis déjà 2 mois.
Moi, je suis d'accord, ça s'essouffle de ouf, vraiment. Et Marissa Cooper, j'en pouvais plus.
Elle était insupportable.
J'en pouvais plus. Clairement, je faisais une overdose, alors c'est triste. Mais c'est pour la bonne cause qui s'est passée.
C'est si violent. C'est si violent.
Je pense qu'ils s'en doutaient. Hein. Je pense qu'ils ont vu que les gens en pouvaient plus et qu'il fallait que ça se termine.
J'ai un coup de gueule par rapport à Newport Beach.
Tout le monde a des coups de gueule aujourd'hui.
J'ai un coup de gueule contre Mathilde.
Enfin, sauf moi. Mais...
Qu'est-ce que j'ai fait?
Un personnage meurt à la fin de Newport Beach saison 3. Sauf que depuis la saison 1, le premier épisode, Mathilde me dit un personnage va mourir. Donc en fait, je suis prêt à la mort de quelqu'un depuis le début. Et c'est arrivé. Et la fin m'a été gâchée.
C'est un coup de gueule pour ça. Mais ça va, ça?
Non, c'est un semi-spoil.
Oh, c'est
un soft spoil.
Non, franchement, ça va.
Non, ça va.
Faut pas exagérer.
C'est toi qui décides, mais c'est toi qui as spoilé. Donc c'est
un
peu bizarre.
Une série qui date de 2005.
Je l'avais jamais vue, écoute. On va passer quand même à la suite. On va écouter la bande-annonce, comme ça on saura ce que c'est.
Et vous pouvez jouer chez vous et essayer de deviner.
Je suis beau. Ah, c'est pas pratique d'être beau. Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit ah, désolé, j'ai pas de monnaie, bon courage, bonne journée. Ça n'allait pas être bien.
Bienvenue au drôle.
Je fais du stand-up.
Du coup, t'es drôle, quoi.
J'essaye, monsieur.
Après, je me dis que j'aimerais essayer autre chose.
Tu veux faire du stand-up?
Je sais plus qui tu es.
Et du coup, je voulais te parler d'un nouveau sujet. Et je voulais t'en parler.
Enfin, c'est un nouveau sketch que j'ai testé ce soir.
On n'en parle pas du plaisir prostatique. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Hein. On est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul.
C'est ton club ici. Donc tu peux passer ce soir.
Il faut laisser la place aux autres.
Fait 1397 euros pour nous deux.
Oui.
En fait, je sais pas comment on va faire là.
Eh ben, on va rouler la joie.
Tu te rends compte, je perds de l'argent avec toi. T'es plus rentable.
Ça va pas. Tu vois bien que ça va pas là.
Qu'est-ce qui se passe quoi là?
C'est la queue pour ton spectacle, Aïssa.
C'est magique.
Votre mec, il en pense quoi?
Tu m'as sacrifié sur l'autel de ta petite célébrité là.
J'ai pas compris comment ça s'était passé. Un jour, je me suis réveillé, vous étiez tous mis à l'eau.
Toi, tu bouges un sourcil. Les gens rigolent.
Parce que ce matin, au réveil, je me suis regardé dans la glace et je trouvais que j'avais pris un petit coup de gueule. Mais là, franchement, je vous vois, je me dis, ça va. Ça va.
Pour moi, faire rire les gens, c'est un truc extraordinaire.
Alors, c'est qui, le gosse?
C'est hyper grand comme tout ce qui me fait. J'ai tellement attendu ça. J'ai tellement sacrifié pour ça.
Oh, c'est drôle, là.
C'est chez nous, ici, en vrai, tu vois.
Elle est vraiment pas mal, cette bande-annonce.
Un peu trop courte.
Un peu trop longue, mais ça va.
Ah, vraiment, à ma gauche, à ma droite. Il y a une divergence.
C'est parce que moi, c'était une petite tentative humoristique.
Oh,
pour être raccord avec le titre.
Et pour
ça
être drôle.
Tombe bien, ouais. Parce qu'on parle de drôle, la saison 1, qui contient 6 épisodes de 45 minutes, qui est sorti le 18 mars 2022. C'est sur Netflix et on l'a regardé
tous les trois ensemble
pendant nos vacances.
Voilà. C'était pas un marathon.
Et c'était pas un marathon. Non. Alors, le résumé, malgré leurs différences, quatre humoristes ont la même ambition, faire rire les autres. Entre petits jobs et rêves de buzz, ils feront tout pour percer dans le stand-up.
Rêve de buzz.
Qui rêve de buzz autour de la table?
Pas très peu.
Buzz l'éclair?
Oh, ben voilà, je rêve de buzz. Damien, est-ce que tu veux donner ton avis pour commencer?
Oh, ben bien entendu. Pardon.
Cette surréaction.
Tellement de politesse.
J'avais pas compris qu'on allait regarder ça pendant mes vacances. Et du coup, je me suis un peu laissé. Bon, bah, regardons. Et du coup.
Non, attends, il faut expliquer que Damien est avec nous en vacances.
Bah, ça, il est bien avec Jenny.
Bah, je l'ai dit pendant nos vacances.
Oui, mais les vacances.
Ah, oui, si, moi j'étais là aussi.
Ah bon?
Oui.
Je t'ai pas vu.
T'es dans notre. Et t'es où?
Bon, et du coup, au début, j'étais un petit peu perplexe en voyant le premier épisode parce que je trouvais que ça jouait un peu bizarrement, pour être
ah ouais
honnête.
Oui, pardon,
je sais pas trop pourquoi.
Mais oui, il avait dit qu'il voilà, jouait pas bien.
Je fais des spoils de mes futurs interventions. mais après, du coup, on a continué à regarder et c'est de plus en plus drôle. Je trouve qu'il y a plein de petites histoires. Oui, c'était une.
Ça parle bien.
Je trouve qu'il y a plein de petites histoires qui se mélangent et qui se rejoignent. Et je sais pas, c'était très bien. Ça aborde vraiment beaucoup de sujets, mais sans en trop en laisser de côté. Je regarde pas beaucoup de trucs français parce qu'en général, j'aime pas trop. Et
pardon.
Coup, j'avais bien aimé.
Monsieur le snobby.
Non, mais c'est même pas du snobby, c'est juste.
C'est parce que déjà, il parle français. Il est pas habitué.
Ah mais c'est pour ça, c'est pas que je trouvais qu'il jouait pas un peu bizarrement.
Ouais, peut-être que c'est.
Je pense que c'est...
Non, il y a vraiment un décalage en fait.
C'est
l'acting français, l'acting anglais, ouais.
T'es pas du tout habitué. Oh bah il parle français.
Enfin en tout cas j'avais bien aimé. Et
il nous a demandé à mettre les sous-titres anglais d'ailleurs. Il le...
Pour de vrai. Voilà, bah j'ai pas grand-chose à dire de plus.
Eh bah moi j'ai d'autres choses à dire de plus. J'ai bien aimé qu'on suive le destin de quatre personnes qui sont liées par un seul truc, c'est le drôle comedy club et la même passion, le stand-up. J'aime bien cette phrase que j'ai écrite.
Ils n'ont pas
le même maillot, mais ils ont la même passion.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est vrai.
C'était quoi aussi la phrase? Attends, il y en a une que j'ai oubliée, qui était incroyable. Je ne sais plus.
Vraiment, je t'autorise à intervenir quand tu veux, quand la blague revient. Pour l'instant, je continue.
Mais non, c'est la blague de Koh-Lanta.
À la fin, il n'en restera qu'un.
Non. Mais non, le truc avec, tu sais, notre couleur, c'est le sang. Et on...
Ah oui, l'autre blanc.
Et on
là,
change les règles maintenant.
Attention, nouvelle règle. On se bat avec le cœur. Non, on a la couleur du sang, mais on se bat avec le cœur. C'est vraiment.
On a la couleur du sang, mais on se bat avec le cœur.
Parce qu'il est couleur rouge, donc le mec. Il...
Et c'est pour l'équipe jaune,
on se bat avec le pipi.
Oh, bah, bien sûr. Ah, d'ailleurs, les équipes, elles sont comment dans Koh-Lanta? Non, attends. C'est pas pour faire une vanne. C'est ma question. C'est quoi les couleurs des équipes?
Bah, rouge et jaune.
C'est vrai?
Oui.
Bon, bah, du coup, ça marche pas. Je croyais que c'était jaune et bleu.
Non.
Et que ça avait un rapport avec l'Ukraine.
il va trop loin tout seul.
Alors que pas du tout.
Bon, je continue. Mon avis sur drôle. J'ai bien aimé que le Comedy Club donc soit le lieu central de la série. Et j'ai encore plus aimé que la série ne s'arrête pas qu'à la vie de scène de ces humoristes. C'est un peu ce que tu disais, Damien. Qu'on découvre aussi leur vie privée.
Oui.
Et que, bah, en fait, on découvre qu'il y a un peu toutes les facettes des humoristes. Il y a l'humoriste en galère qui est vraiment en perte de vitesse. Il y a l'humoriste en pleine ascension. Il y a l'humoriste en apprentissage. L'humoriste en déclin, etc.
L'humoriste qui stagne aussi.
C'est qui stagne?
Hein?
C'est qui stagne?
Je ne sais plus son prénom.
Non, mais il n'y en a pas qui stagne. Hein.
Mais si. Bah, le personnage principal.
Il stagne pas du tout.
Bah si, il est drôle, mais il n'a pas d'évolution de carrière sur le coup.
Bah, il est hyper...
C'était
mon humoriste qui galère.
Quand il arrive, ah ouais, c'est celui qui galère.
Sur le premier épisode,
en déclin, c'était
Qui galère financièrement parlant.
Voilà, qui galère, il n'arrive pas à exploser.
C'est pas Bling?
Si, c'est Bling Bling.
Bling, ok, j'ai dit Blind, mais il est aveugle parce que plus personne n'en veut. Voilà. J'ai bien aimé aussi parce que c'est une série très parisienne et vous savez que j'aime bien quand c'est des séries parisiennes. Les personnages sont super attachants et sont bien écrits. Et de manière générale, la série, elle m'a paru vraiment très bien écrite du coup. Il y avait une vraie modernité dans les thématiques abordées, dans les relations femmes-hommes par exemple, ou dans la manière de raconter les milieux sociaux aussi. Je trouve que c'était pas trop cliché ou trop caricatural.
Bah, du coup, il y en avait quand même une qui était méga cliché, c'est La Vieille Bourge, mais à part ça, ouais, tout le reste.
Oui, oui,
après, elle a atteinte de maladie mentale, donc c'est un peu particulier.
Oui, mais tu le sais que vers un certain moment.
Mais du coup, ça peut justifier tout son traitement depuis le début.
Ouais, mais je trouve que ça justifie, ouais.
Il y a une vraie justesse sur l'évolution de ces personnages et une réelle fidélité au milieu du stand-up. Je connais pas du tout ce milieu, mais j'ai trouvé que c'était très fidèle.
C'est un objet éclairé, du coup.
En gros, j'ai vraiment bien aimé. Et pour info, si vous voulez des infos, c'est un truc que je me suis posé pendant toute la question, c'est est-ce que la série a embauché des humoristes qui font du stand-up, mais alors que non, ce sont vraiment des acteurs et des actrices qui ont pris des cours de stand-up, avec Shirley Soignon notamment, voilà,
qui a plein de comédie clubs sur Paris.
Elle en a plein ?
Elle en a plusieurs. D'accord. En tout cas.
Ok. Et justement, tous les textes sont signés par des personnes connues du stand-up. Il y a Shirley Soignon, donc Fanny Ruet, qu'on connaît. Thomas Wiesel.
On la voit, non, dans la série?
Oui, elle passe. Et Thomas Wiesel, je crois pas. Et Jason Brokers, lui, je ne le connais pas.
Je crois qu'on le voit, Thomas Wiesel, on voit.
D'accord, ouais, peut-être. Ok.
Mais il y a plein de monde. Il y a. Du coup, j'ai plus.
Bah, bravo.
C'est vrai que
il est super connu. Il a fait des trucs sur Quotidien quand il était super jeune.
Ah oui, il y a Panayotis.
Oui.
Il y en a un autre aussi, j'ai oublié son nom, qui a des lunettes, qui est très marrant.
C'était pas Thomas Wiesel?
Non. Non. Qui met tout le temps des joggings, il est très drôle. J'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé.
Ou tu rigoles parce qu'il a des joggings, c'est un peu du
jugement. Non, c'est une manière de le décrire. Et autrement, fun fact, Younes Boussif, oui, il est rappeur.
Ah ouais.
Voilà, avant d'être acteur, il est rappeur.
Ouais.
Et j'ai écouté. C'est pas ma cam, mais c'est pas mal. Vraiment, c'est très bien fait.
Ouais, j'écouterai, tiens.
Mais c'est pas ma cam. Voilà. C'était une super découverte drôle, en tout cas. J'espère qu'il y aura une suite.
Ouais, moi
c'était
aussi, j'ai bien... J'ai
pas découverte virgule drôle ou c'était une super découverte drôle?
Les deux.
D'accord.
Moi, j'ai pas dit ce que j'en pensais, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça cool.
C'est vrai.
Et après, vous avez raconté plein de trucs que je suis plutôt d'accord.
Bon, donc, on a dit des trucs où t'étais pas d'accord?
Bah, t'as dit qu'il jouait mal, moi j'ai pas trouvé. Mais
j'ai pas dit qu'il jouait mal, j'ai dit que ça jouait bizarrement.
C'est ton côté anglophone. Inexistant, mais...
Ben voilà, c'est pas grave, donc c'est bizarre.
Non, mais moi, je
C'est juste que le début, il est un peu plus mou que la fin, non, je sais pas. Ouais.
Moi, je trouve qu'au contraire...
Ah si, j'ai bien aimé... Les... J'ai bien aimé, je sais que c'est un peu bizarre, mais l'évolution de la fille qui joue Apolline.
Ouais.
Et son humour, enfin, en fait, l'humour qu'ils lui ont donné, en tout cas, dans son rôle, je trouve qu'il lui colle vraiment bien. Et la perso en elle-même, elle est... je trouve que l'actrice est... Enfin, elle a un truc... je sais pas.
Bah, d'ailleurs, en parlant de truc... bah non, du coup, en l'inverse, un truc perfectible, limite, je trouve que le temps est pas forcément très bien représenté. Genre, elle devient forte d'un coup, j'ai l'impression. Alors, je comprends que c'est parce que...
Bah, je pense pas, parce que le moment entre le début, entre l'épisode 1 et le 6, je pense qu'il y a du temps, parce qu'il y a l'Olympia, il y en a une qui fait plein de dates aussi au Palais des Glaces.
Ouais, mais du coup, comme c'est super court,
c'est vrai. Je suis d'accord que, ouais.
La temporalité est pas bien.
Hyper bien définie.
C'est pas qu'elle est pas bien, c'est que ça pourrait être mieux, quoi.
Oui, mais à mon avis, il y a au moins 6 mois, ou voire plus, qui défilent pendant la série, mais on les voit pas, quoi.
Il y a des séries qui gèrent beaucoup mieux la temporalité comme parallèle.
Ah, mais on en parlera le mois prochain.
Le mois prochain.
On a fini avec les séries. On peut passer au film. Je suis le seul à parler pour les films. Je suis le seul à en avoir regardé. J'en ai regardé 2.
C'est pas vrai, on en a regardé 1. C'est le sujet du mois.
Moi, j'ai vu.
Oui, c'est vrai. Il y a le sujet du mois. Ah bah, Damien, tu vas pouvoir rebondir avec moi. J'ai regardé donc.
C'est Hector.
Le premier opus de la saga Alien qui s'appelle Alien, le 8e passager. Le titre français est nul. C'est sorti en 1979. Ça dure 1h57.
Spoil.
Oui, en plus. C'est sorti.
Pourquoi il n'y a que 7 passagers ?
Il n'y en a que 7 dans l'équipage. Il y en a un 8e mystérieux.
Ah, je pense qu'il n'est pas cool.
C'est sorti. Oh putain, non, c'est dispo sur Disney Plus.
C'est trop marrant.
C'est réalisé par Ridley Scott. C'est avec Sigourney Weaver, John Hurt et Ian Holm. Et le résumé, c'est durant le voyage retour du cargo spatial Nostromo, après une mission commerciale de routine. L'équipage en hibernation depuis 10 mois, est tiré de sa léthargie plutôt que prévu par l'ordinateur de bord du vaisseau pour visiter la planète LV-426 suite à la captation de signaux radio inconnus. Sur place, l'équipage découvre une forme de vie extraterrestre a priori hostile.
A priori, on ne sait pas trop.
Elle l'attaque.
Sauf que tu donnes un peu un avis.
Elle les attaque. Donc du coup... Bon, plus sérieusement, ça faisait longtemps que je traînais cette saga dans ma watchlist et j'avais assez peu de motivation. Et soudainement, je me suis chauffé. Vraiment. D'un coup, j'ai dit, je les regarde.
Je vais avoir un peu peur.
Et bien justement, alors je pensais pas en parler d'un coup, mais j'ai pas eu si peur que ça.
Non, mais tu l'as regardé dans quelles conditions ?
Le soir, tout seul, dans mon salon. Ok, bon. Avec slow. Non, c'est pas dans le salon, c'est au bureau.
Ah, mais c'est pour ça.
J'ai eu un petit peu peur parce que des fois, slow, elle apparaissait d'un coup comme ça.
Ça compte pas.
Et ça me faisait des mini screamers. Mais je pense qu'en fait, je m'étais un peu trop chauffé sur l'aspect terrifiant.
Ah oui.
Du coup.
Il y a plus de tension que de.
Ouais, voilà, c'était vraiment plus tendu. Et il y a un endroit, un moment, une scène qui m'a vraiment, vraiment. Du coup, pas terrifié, mais très, très tendu. Mmh. C'est la scène où une des personnages meurt, se fait tuer par l'alien. Et c'est une scène de viol, en fait, ce truc. En plus, on n'a que l'audio que Ripley entend. C'était vraiment, vraiment dur à écouter, à regarder. Mais en tout cas, plus généralement, donc, ce film, c'est vraiment un chef-d'œuvre qui n'a pas volé sa réputation. Et je ne mâche pas mes mots en disant ça. Absolument tout est bien écrit. C'est vraiment plus qu'un divertissement. C'est un film qui traite de sujets graves, comme le viol, comme je disais, et la discrimination sociale aussi. C'est un petit peu balancé comme ça, mais c'est bien fait aussi. Et pour un film non dystopique de SF des années 70, et bah, traiter de ces sujets-là de manière aussi juste, bah, c'est plutôt rare.
En fait, c'est pas. Tu trouves que c'est non dystopique ? En fait, surtout, on sait pas.
En fait, on sait pas, mais du coup, je veux dire, on voit pas de désert, on dit pas qu'il y a une guerre apocalyptique ou je sais pas quoi. C'est pas Blade Runner, en fait, voilà, c'est juste un cargo de l'espace. Et puis, comment ne pas parler de Ripley, qui est incarné par Sigourney Weaver, qui est direct top 3 des meilleurs persos féminins de l'histoire du cinéma ? Pareil, j'invente pas l'eau chaude, mais elle est incroyable. Et pour la petite histoire, Ripley, elle a longtemps été. Dans le scénario, un personnage masculin. Et c'est pour ça que elle échappe à tous les stéréotypes qu'on donne aux personnages féminins. Et donc, du coup, bah, je pense que c'est pour ça que ça marche, que son personnage marche à fond. Parce que elle échappe à tout ça et à tous ces clichés, donc c'est vraiment cool. Mais ce que j'ai vraiment le plus aimé dans ce film, c'est la direction artistique, qui est avec une réalisation qui est parfaite, permet au film de nous tenir dans une tension hyper soutenue pendant au moins une heure. À partir du moment où on voit l'alien, la tension elle redescend jamais. Donc c'était vraiment trop bien. Et en fait, parce que j'ai remarqué que ce qui fait que ça marche aussi bien, c'est qu'on voit jamais l'alien, on le voit très peu, mais en fait on a plus peur de le voir que de le voir lui-même. C'est un peu comme dans The Batman. C'est vraiment, en fait, j'avais plus peur de le voir apparaître d'un coup, sortir de l'ombre,
ouais,
que de le voir vraiment.
Ouais, je comprends.
Et enfin, c'est vraiment un grand, grand film.
Parfait. Est-ce que tu les as enchaînés?
Le lendemain, j'ai regardé.
D'accord.
La suite, justement, qui s'appelle Aliens,
nuit.
Le retour. Non, parce qu'il fallait que j'aille dormir quand même à un moment. Aliens, le retour, le nom français est encore nul.
Ils reviennent.
Ils reviennent, bah, et ils sont vraiment fou, hein, énervés.
Ils reviennent.
C'est sorti.
Mais est-ce que tu as regardé Alien vs Predator?
Non, je pense que je les regarderai à la fin tout ça.
Tu vas être déçu.
Oui, je sais. C'est sorti en 1986, ça dure 2h17, c'est très long. C'est encore sur Disney+. Et c'est réalisé cette fois par James Cameron. On retrouve Sigourney Weaver, accompagné cette fois-ci de Michael Biehn. Biehn, je ne sais pas comment on dit. Lance Henriksen et Bill Paxton. Donc le résumé, c'est après 57 ans de dérive dans l'espace...
Elle est vieille.
Elle dormait. Donc, Hélène Ripley est secourue par la corporation Weyland-Yutani. Et malgré son rapport concernant l'incident survenu sur le Nostromo, elle n'est pas prise au sérieux par les militaires quant à la présence de xénomorphes sur la planète LV-426. Alors qu'on les a vus, on l'a vu, l'alien.
On l'a vu.
Et ben maintenant, sur cette planète, il y a plusieurs familles de colons qui ont été terraformées la planète pour y vivre, y faire une colonie.
C'est une bonne idée. Hein.
C'était, ouais, mais vraiment pas la meilleure planète. Et après la disparition de ces familles, Ripley décide d'accompagner une escouade de Marines dans leur mission de sauvetage. Eh bien, avec ce film, si vous prenez toutes les choses formidables que j'ai données, que j'ai citées élogieusement à Alien, eh bien, vous les enlevez et vous avez Aliens. En fait, je savais que Aliens était moins bon, avait une moins bonne réputation, mais je ne m'attendais vraiment pas à être déçu à ce point parce que je faisais un peu confiance à James Cameron. Et ben, en fait, tout ce qui est bien dans Aliens, c'est ce qui était bien dans Alien. Et tout ce qui n'est pas bien dans Aliens, c'est toutes les choses nouvelles. Et parce que déjà, d'une part, c'est un actionneur beaucoup plus basique, avec beaucoup de bagarres et beaucoup d'armes. Et j'en ai marre de ces films-là. Et le traitement des aliens, il me plaît vachement moins aussi parce qu'on les démystifie. Parce qu'on on les voit beaucoup trop souvent, et ça joue moins avec les ombres et tout ça. En plus, on les fait vivre comme une sorte de ruche, avec des dizaines et des dizaines d'enfants. Il y a une reine, on dirait vraiment des insectes. Et en fait, j'aimais bien qu'on comprenne pas ce que c'est l'alien, qu'on sache pas d'où il vient, comment il fonctionne, etc. Et puis, le traitement de Ripley, il est vachement moins bien aussi, parce que du coup, cette fois, bah, elle est écrite comme une femme, donc on lui ajoute des stéréotypes de personnages féminins. Par exemple, bah, on lui donne un instinct maternel. Il faut qu'elle protège un enfant, bien sûr.
Après, il n'y avait pas d'enfant dans le premier. Ça se trouve, elle aurait voulu le protéger.
Ouais, mais tu vois, par exemple, on lui a donné un chat. Elle s'entend hyper bien avec le chat. Mais ça ne lui donne pas un instinct particulièrement maternel. Ça fait qu'elle elle a de la compassion pour d'autres personnes. Enfin, en l'occurrence, le chat. Elle veut absolument sauver le chat. Je dis comme ça, c'est nul, mais dans le film, ça a trop, c'est trop, trop bien.
Moi aussi, j'aurais voulu sauver le chat.
Très bien.
Alors que l'enfant, ça va, on peut s'en passer.
Ça dépend à qui il est.
Il est à personne, c'est une orpheline.
Ah, ça y est, Mathilde est
convaincue. Elle est mignonne ou elle est moche?
Elle s'entend bien avec le chat.
Mignonne, mais sa VF est assez...
Elle a quel âge?
Elle doit avoir vraiment 11 ans.
11 ans, c'est un peu trop vieux pour être sauvée.
C'est un peu horrible.
C'est vrai ce que tu dis. Et puis, l'instinct maternel. Non, vraiment, l'instinct maternel, c'est relou. Mais surtout qu'on l'a fait flirter avec un mec. Donc forcément,
mais
voilà.
Au pire, on peut sauver un enfant sans parler d'instinct maternel.
Je suis d'accord, mais là,
genre,
vraiment...
Par exemple, là, tout de suite, il y a un problème, tu vois, dans l'immeuble. Et je vois que notre petite voisine, qui, genre, a 4-5 ans, je dirais, galère à descendre les escaliers.
Romy?
Oui.
Elle a 2 ans.
Ok, elle va galérer.
Non, mais voilà. Je vois, voilà, sa maman, par exemple, a son autre enfant dans les bras. On doit tous sortir. Il y a de grandes chances que l'un de nous attrape Romy, tu vois.
Ah oui.
Pas parce qu'on a un instinct paternel, maternel, mais parce qu'on se dit, on va pas la laisser là.
Bah, dans Aliens, y a l'instinct maternel qui rentre dans l'équipe.
Genre, on va pas laisser cette petite enfant ouais. là. Mais on prendra notre chien aussi. Hein.
Mais voilà, du coup, Ripley, elle est.
Ouais, je mets des situations.
Et c'est vraiment ça, Ripley, elle est hyper cool parce que elle récupère, elle hérite de tout ce qui était vachement bien avec elle dans Alien, mais on lui rajoute des trucs relous dans Aliens. Bon, en tout cas, c'est quand même bien fait, c'est bien mis en scène et tout parce que c'est James Cameron justement, mais c'est trop bagarre et j'en ai marre.
Chanson. Bagarre.
Mais
bagarre.
Peut-être que à l'époque, il y avait moins de films bagarre et que ça marchait quand même.
Dans les années 80, on kiffait trop les actionneurs. Hein. C'était à l'époque de Predator, de Rambo, tout ça justement, les héros riganiens et tout. Donc je regarderai la suite, bien sûr, et les suites pas ouf. Et je vous en parlerai le mois prochain. Et maintenant, on peut passer au sujet du mois en écoutant la bande-annonce.
Du sujet du mois.
Du sujet du mois. Bootsy Cat, c'est Bootsy Cat. Bootsy Cat,
c'est Bootsy Cat. Bootsy Cat, c'est Bootsy Cat. Je m'appelle Maylin Lee. Je porte ce que je veux, je dis ce que je veux. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Me voilà,
j'assure. Mais j'ai pas le temps de m'amuser.
Queso blanco me gusta.
C'est pas facile tous les jours, pas vrai?
Les fantômes.
Ça va être la meilleure année de toute ma vie. Et rien ni personne ne m'arrêtera.
May May, le petit déjeuner est prêt.
J'arrive.
It's gonna be May.
Tout va bien, chérie?
Merde, je suis un gros monstre dégoûtant. Ne le regardez pas. Laissez-moi.
Ça lui arrive déjà.
Quoi? Qu'est-ce que t'as dit?
Nos ancêtres avaient un lien mystique avec les pandas roux.
Non, mais c'est une blague ou quoi?
C'est une petite excentricité dans notre famille.
T'es trop chou.
La chance, on dirait une peluche.
C'est horrible.
On t'adore, May.
T'assure. Wow. T'en voilà.
N'importe quelle émotion forte va libérer le panda.
Abby, frappe-moi.
Tu réalises à quel point c'est dangereux. Si tu t'énerves, c'est le panda assuré.
Je le crois pas.
Toute ma vie, j'étais la gentille petite Mei Mei. Ouais.
Je me sens plutôt bien en panda.
La pauvre chérie.
Arrête, je t'en supplie.
C'est bien de Alerte Rouge dont on parle. Le film américain de Domichi Dispo est sorti sur Disney Plus le 11 mars 2022, qui dure 1h40. C'est avec Genelia Kwadu et Yumi Fujimori. C'est le 25e film produit par les studios Pixar. C'est le premier film Pixar réalisé par une femme. C'était sorti, bien sûr, initialement prévu d'être sorti au cinéma. Mais en janvier 2022, Disney a dit « ça sortira que sur Disney+, en premier access ». Ce film a été accompagné d'une petite polémique, qui a son importance, mine de rien. Pendant que le studio, enfin que Disney était empêtré dans la polémique autour de la loi « Don't say gay », est-ce que vous voulez que je vous explique ce que c'est ou on
c'est quoi?
C'est en fait, c'est que il y a une loi en Floride qui est en train de passer ou qui est passée,
qui est passée,
qui veut que en gros, qui interdit qu'on parle de genre, de sexualité, qu'on ne parle plus de personnes LGBT en fait à l'école. Qu'on sorte ça complètement de l'éducation en Floride. Donc c'est un truc très de droite et très de merde. Et en fait, Disney n'a jamais pris position pour dénoncer cette loi. Et pire, a fait des dons de $300,000 à des soutiens politiques du projet de cette loi. Et donc du coup, c'est la merde. Et des employés de Pixar ont écrit une lettre ouverte qui a ensuite été relayée sur Twitter et qui dit, je cite, « Presque tous les passages ouvertement gays sont coupés à la demande de Disney, sans prendre en considération les protestations des équipes créatives et exécutives de Pixar. » Et du coup, cette annonce révèle ainsi qu'une scène mettant en scène des personnes LGBTQ+, aurait été supprimée du film Alerte Rouge.
Mais on ne sait pas laquelle, du coup.
On peut la deviner. J'ai entendu des trucs de personnes qui pensent qu'elle sait, mais officiellement, on ne sait pas laquelle c'est. On sait qu'il y a une scène qui a été supprimée.
Parce qu'il y a des gens qui pensaient que c'était le garçon.
Non, apparemment, ce serait plutôt une des amies de May.
Bah, c'est ce que je pensais aussi.
Au bal, en fait, elle danse avec une fille et ça coupe très brutalement. Et voilà, ça aurait pu être... peut-être qu'il y aurait eu un petit flirt après entre elles deux. En réponse, Disney a annoncé avoir réintégré, vraiment réintégré, c'est important, c'est un baiser gay chelou dans la prochaine production Pixar, le film Buzz l'éclair, qui sortira au cinéma cet été.
Et une annonce qui a également... Ouais. Alors, moi, j'ai été ouf quand ils ont annoncé ça, le nombre de personnes vraiment... homophobes et j'en passe qui se sont exprimés à ce sujet, mais j'avais envie de... Enfin, c'est vraiment le moment où t'as pas envie d'être sur les réseaux sociaux. Bah,
dès qu'on parle de ça, eh ben...
Après, enfin, je sais pas comment dire, mais le mot réintégrer, enfin, c'est vraiment de la mouise, quoi.
Je dis réintégrer avait son importance parce que ça veut dire que Disney, encore une fois, avait supprimé une scène avec des personnages LGBT, en l'occurrence un baiser gay entre deux femmes, je crois. Et du coup,
ouais, mais
Disney
le terme
fait marche arrière.
Le terme réintégrer, ça, est-ce que ça veut dire que dans Buzz l'éclair c'était prévu à la base,
oui,
ou est-ce qu'en gros il le crée?
Non, non. Encore une fois, Pixar avait mis ce, peut-être dans un démontage, avait mis cette scène
l'avait
et Disney l'avait censuré.
Ok. Donc c'était déjà une scène qui était prévue dans Buzz l'éclair.
C'était soit dans le scénario, mais je pense que c'était déjà animé vu que ça sort cet été. Enfin voilà, pour un peu de contexte.
Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Entre autres, là, les créatifs, enfin, Pixar fait très bien son boulot, hein. Désolé, mais ils n'ont pas besoin qu'on les bride, si je peux dire.
Et ouais, mais au cinéma, aux États-Unis, je veux dire, les producteurs ont tous les droits et ont le dernier mot. Contrairement
L'argent.
En France, où c'est les réalisateurs et réalisatrices qui décident du montage final. On parle du film ?
Oui !
Oui !
Qui commence ?
Ce serait trop marrant qu'il y ait des montages de camping, genre, mais des versions des réals différentes de celles des prods.
Vraiment une director's cut de camping.
Oui. Toi, tu penses à camping, là, tout
un
de suite, c'est le premier truc.
Un director's cut.
Bah, c'est déjà, en fait, vu que je disais en France, c'est le réalisateur qui a le dernier.
Du coup, ça
ne
marche pas, mais... Pardon, ça n'avait aucun rapport.
Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé... Alerte rouge, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Moi aussi, et j'aime le jeu de mots. Alerte rouge.
Parce que c'est un panda rouge.
Mais non, c'est un jeu de mots avec le fait qu'elle a en âge d'avoir ses règles aussi.
Ah.
Ouais. Et d'ailleurs, félicitations à Pixar pour avoir montré des serviettes hygiéniques à l'écran à des ados.
Vous les avez vues? C'est non.
C'est...
Bah écoute...
On ne peut pas tout avoir, écoute.
Le
hein.
Féminisme. Et l'ouverture d'esprit après. Non, mais non.
Bah, c'est la...
Je suis pas d'accord
d'ailleurs,
avec ça.
C'est très rare, tu le dis, mais c'est peut-être déjà dans
un
Disney.
Non, je pense que c'est la
déjà
première
dans
fois
un Disney, c'est la première
ça.
Fois. Et surtout, bah, en fait, c'est très rare, mais c'est surtout peut-être la première fois qu'on en parle sans faire une blague.
Ou sans dire ah, c'est dégoûtant.
Ou sans dire c'est dégoûtant.
Il y a un peu une blague quand même sur la manière dont la mère surréagit.
Ouais, c'est le sketch, mais oui. Elle dit t'as tes règles, mais des. Enfin voilà, il faut que tu mettes des serviettes hygiéniques.
Oui, elle réagit, mais elle réagit un peu comme une. Je trouve que là, c'est plutôt la maman. C'est le stéréotype de la maman plus que le stéréotype des règles. C'est
oui,
une réaction
oui,
de maman.
Oui,
quoi.
Oui voilà.
Oui,
je pense que t'es la mieux placée pour savoir comment réagit une maman dans ces situations-là.
Pas spécifiquement.
Non, mais Damien et moi, vraiment, par rapport à l'arrivée
des
règles. Vos mamans,
elles n'ont pas réagi quand vous avez eu vos règles.
On est très peu concernés, du coup. Mais voilà, je trouve que pour le coup, ça, c'était vraiment bien de voir des serviettes hygiéniques.
Même si, les gars, culottes de règles, hein. Allez, on arrête. Hein.
Ah oui,
l'écologie
oui,
avant
oui,
tout,
oui,
maintenant.
Oui, ça, bien sûr, c'est vrai.
Non, mais Pixar, Pixar. Allez, plus loin.
Mais t'en as parlé du coup. Alerte rouge, c'est une allégorie des règles
oui.
et du passage
de l'âge d'enfant à
ouais,
adulte,
voilà, d'ado, à adolescent. Donc c'est pas très subtil, mais ça fonctionne hyper bien
ouais,
quand même malgré tout, avec la transformation en panda roux qui en fait est ce passage à l'adolescence. Visuellement, j'ai trouvé ça très recherché.
Moi j'ai bien aimé.
Très abouti, très riche. Il y a beaucoup de choses à l'écran et je trouve que depuis Saul, Pixar sort de sa zone de recherche, de sa zone de confort.
Bah, j'avais pas aimé recherche.
Oui, non, j'avais pas trop aimé. Visuellement, j'avais été assez
emballé
par ça.
J'ai préféré ce film-là. Mais je crois que c'est aussi l'ambiance Saw 90-2000. Ouais. Enfin, j'avais l'impression... En fait, j'ai l'impression que c'était moi qui allais à l'école avec mon petit Tamagotchi.
Tellement... En fait, on a complètement l'âge.
May,
elle a 13
j'étais...
ans en 2002, donc en fait, on est complètement là-dedans.
C'était moi.
et en fait, Pixar, avant, faisait vachement d'hyper-réalisme. Et là... s'oriente vers des choses avec d'autres personnalités. Et ça m'a fait penser à un peu Spider-Man Into the Spider-Verse.
C'est vrai.
Quelque chose de...
Oui, mais c'était moins bien quand même, à un moment donné. Pardon.
Non, mais
Damien dénonce.
Non, mais c'est vrai, il a raison. On n'était pas sur le même niveau.
Non, mais c'est pas là du tout
mais
le même truc non plus.
C'était pas non plus le même souhait.
C'était gratos, désolé.
Oui, c'était gratuit. C'était gratuit.
On parlait...
Mais c'était pas le même public en plus, je pense.
Non, pas du tout.
Ouais, non, vraiment pas non plus. On parlait de féminisme avec les serviettes hygiéniques. Le film, même, il est hyper inclusif aussi.
Ouais.
Parce que, par exemple, par rapport aux ethnies et au corps, parce que, par exemple, il y a une copine de May qui a un patch de diabète. Alors ça, je ne l'ai pas vu pendant le film. Je l'ai entendu après, en écoutant des avis. Donc du coup voilà, c'est juste avoir une personne diabétique, voilà, comme ça les personnes diabétiques
non,
se sentent représentées.
Leur...
fait pas tout un...
Ouais voilà, en plus c'est pas oh t'es diabétique, je peux pas manger de sucre, c'est juste comme ça.
Mais même j'ai bien aimé aussi que le petit gars, enfin le mec là qui c'est leur pote mais qui, tu sais, ils vont à son anniversaire, et ben lui il est fan du groupe
de
Boys Band. Un garçon fan de Boys Band, tu vois. Enfin,
ouais, pareil.
C'est très...
Et il y a une autre...
Ça casse un peu les codes, déjà.
Il y a une autre amie de mec, un appareil dentaire. Il y a zéro blague dessus. Mmh. Elle a un appareil dentaire.
Mais parce que quand
voilà.
on était au collège, on avait tous des
mais
appareils dentaires. Hein. Revenez
mais
sur Terre, revenez.
Dans les films ou dans les dessins animés, à chaque fois, il y a un moment...
Taper Damien.
Oh là là. Bah non.
Moi, j'en ai un.
Il se passe un truc avec les appareils dentaires. Il y a toujours... il y a un truc avec l'électricité où elle fait des aimants avec sa bouche. Tu vois, vraiment, il y a toujours un sketch. Et là, il n'y a rien, donc c'est trop bien. Et comme par hasard, tout ça, c'est parce que c'est un film réalisé par une femme, coïncidence.
Non.
Je ne pense vraiment pas.
Non. Par contre, moi, il y a une scène qui m'a un peu trauma. Mais en fait, c'est pas qu'elle m'a trauma, c'est que je me sentais tellement mal à l'aise. La scène où sa mère, elle découvre ses journaux et qu'elle faisait des dessins et qu'elle allait dans la supérette voir ce type qui n'a jamais parlé à May et qu'elle le traite en mode « Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille ?» et tout ça. Mais en fait, j'étais horrifiée. J'étais horrifiée parce que peut-être que ça aurait... Enfin, moi, je me suis mis à la place, cet ado. Mais tu sais, je me suis sentie vraiment dans ces moments où tes parents t'humilient.
Ouais.
Vraiment. Et en fait, c'est vraiment des moments qui existent. Et je me suis retrouvée au collège humiliée par mes parents. Et je me suis dit, oh là là, c'est horrible.
Elle a été faire ça.
Non,
mais
il
y a des trucs...
Nos parents nous ont toujours fait des trucs un peu foireux comme ça.
Il y a des trucs complètement idiots. Mais moi, par exemple, quand j'étais au collège, mon père, pendant un moment, il portait des pantalons avec plein de trous. Mais vraiment, il portait des pantalons troués. Voilà, il arrivait en mode grunge pour venir me chercher à l'école. Et ben, il y a des fois, je peux passer devant et je continuais. C'était super méchant. Vraiment super méchant. Ouais. Mais aujourd'hui, je le sais. Et aujourd'hui, mais je m'en veux trop, tu vois.
Moi, j'ai fait des trucs comme ça aussi.
Mais parce que j'avais honte de ouf. Alors qu'il n'y avait aucune raison. C'est complètement stupide.
Au collège, moi, mes parents aimaient bien se garer vraiment. S'ils pouvaient se garer dans le collège pour venir me chercher, ils le feraient. Et donc, il s'est garé vraiment devant. Un jour, mon frère et moi, on avait dit... un drive d'enfant. Mon frère et moi, on avait dit, est-ce que vous pouvez vous garer on n'était pas les enfants qui se garaient à 100 mètres du collège, mais juste pas dedans. ils ont klaxonné. Un jour, ils ont klaxonné. Genre, ils nous ont vu arriver. Ils ont klaxonné. Ils ont fait coucou. Vraiment pour nous mettre la teon. Ouais,
c'était pour que vous les trouviez.
Mon Dieu.
Un jour aussi, mon père, là, c'était au lycée, mon père a voulu... est tombé en panne devant le lycée et m'a demandé de pousser la voiture devant le lycée. Elle était très lourde, donc j'ai demandé à un copain à moi, un gars de ma classe qui s'est foutu de ma gueule. J'étais wow,
non mais
super.
Voilà, en gros vous connaissez ces moments où vous avez pas envie que vos parents soient là, où vous avez pas envie que ça soit vos parents, vous savez.
Oui.
En grandissant, vous trouvez ça horrible. Et vous espérez sûrement, enfin, je sais pas, mais tu vois, les gens qui ont des enfants.
Bah, tu mettras pas de
qui sont maintenant. Hein.
Mais si, c'est à la mode maintenant.
Il y a des gens qui ont notre âge qui ont des enfants maintenant et je me dis, ils doivent dire, oh, j'espère que je foutrai pas leur honte comme ça. Mais en fait, ouais. Je pense que c'est un cycle. C'est
mais
un
oui, cycle. C'est cyclique.
C'est cyclique.
Quand tes parents, tu fous la honte à tes enfants.
Mais aujourd'hui,
je demande pardon.
Je demande pardon à mon papa.
Moi aussi.
Qui attendait que j'arrive et en fait, j'étais rentrée à pied pour pas rentrer avec.
Ah oui, là, j'étais pas juste passé devant. T'avais fait un détour pour pas qu'il te voie.
Il ne m'avait pas vu. Je m'excuse.
Mais tu vois, moi, je trouve que ce que tu racontes là, c'est parce que les.
Papa,
je t'aime. Les adolescentes. Les adolescentes sont.
Non, mais
moi, je continue.
La machine, il écoute. J'ai envie de. Enfin, voilà le point.
C'est parce que les adolescentes sont hyper bien écrites.
Ouais, elles sont vraiment.
Elles sont insupportables parce qu'elles sont hyper bien écrites. Parce que des filles, un groupe de filles au collège, c'est comme ça. Ça.
Ouais, c'est vrai.
C'est un peu. Alors attention, je mets des gros guillemets. C'est un peu hystérique, c'est un peu fofolle. Mmh. Ça parle des garçons très excités. Ça. Voilà, ça.
Ça parle des choses très excitées, pas spécifiquement des garçons.
C'est vrai que j'aurais pas dû dire des garçons.
Non, c'est pas les garçons.
Ça parle des choses très excitées. Je t'ai dit les garçons parce que je pensais au boys band.
Non, mais je pensais ça parce que quand j'étais au collège, moi, j'écoutais pas trop de boys band. Mais par contre, j'étais fan des musiques. Hein ? Non, ça existait pas. J'étais fan des musiques dans les Disney, tu vois.
Ah oui.
Et bah, j'étais ouf avec les musiques dans les Disney. Je chantais à tue-tête et tout. Et dès qu'il y avait un nouveau Disney qui sortait, j'étais incroyablement fou. Mais voilà, chacun son boys love, boys interest.
Son, je sais pas, son bref. Ouais. Ah, du coup, les boys band, quelle merveilleuse idée!
Mais oui, et la musique, les gars, je l'adore, je l'écoute, elle est dans ma playlist. Mm. Ouais.
Même de manière générale, avoir amené le film en 2002, je trouve qu'on est à la bonne époque. Ouais. C'était il y a 20 ans, c'est bon, on peut faire des films en 2002. Avec une petite nostalgie, mais pas la nostalgie. Eh, c'était vachement mieux en 2002. Hein. Mais juste, c'était une année, on pouvait kiffer. Enfin, on aime bien quoi.
Franchement, avec du recul, c'était pas si mal 2002.
Ouais, bah, j'ai lu.
À part les pantalons à pattes d'ef.
Si, moi, je me souviens.
C'est revenu.
Hein. 2002,
hein.
Non, mais regarde aujourd'hui. Regarde l'actu d'aujourd'hui. Regarde l'actu de 2002.
Après 2002, il faut faire attention. Il y avait, on sortait du 11 septembre,
ouais,
donc c'était
pas
non plus, c'était pas non plus
le
paradis quoi.
Peut-être pas le même point de vue parce qu'on n'avait pas.
Je pense que c'est ça.
Mais je pense que c'est ça. Ouais. On se rendait, on avait l'idéalisation de la naïveté.
Par contre, par rapport aux adolescentes en 2002, le fait qu'il n'y ait pas les réseaux sociaux et les téléphones, alors je veux pas faire mon boomer, mais ça, la vie était totalement différente. Et c'est
oh, mais on les voit avec leur petit téléphone à prendre des photos. Là,
ouais, mais c'est ça. Enfin, c'est et la réalisatrice, j'ai lu qu'elle a dit ça. Déjà, elle avait 13 ans en 2002, donc elle a pu raconter vraiment presque sa vie. Elle est canadienne.
Mm-hmm.
Le
pas,
film, ça passe
vraiment
au Canada. Enfin ouais, voilà, c'est vraiment sans doute plein de choses qu'elle a à peu près vécues. Et elle a dit qu'elle a volontairement voulu amener ce film-là à cette époque-là parce que justement, il n'y avait pas les téléphones. Donc du coup, elle pouvait raconter une relation de quatre filles qui faisaient que parler tout le temps et qui n'étaient pas... qui jamais n'étaient à un moment... Il y avait de blanc parce qu'elles étaient sur leur téléphone. Et c'est ça qu'elle voulait un peu retranscrire dans son histoire.
Ça marche bien.
Et ça marche trop bien. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur Red Alert? Je pense qu'on a compris qu'on avait... bien aimé.
Ouais, c'était cool. Franchement, un bon sujet du mois. Yeah.
Oh, c'est vrai que ça faisait longtemps.
Ça faisait grave longtemps.
Attends, la dernière fois, c'était quoi?
C'était Harry Potter, les 20 ans, ouais, le retour à Poudlard éclaté, là.
Ah, et sinon, si, moi j'y pense, j'ai mis que j'ai pas compris pourquoi cette jeune fille se transforme en panda et que tout le monde trouve ça normal alors que c'est très inquiétant pour sa famille. C'est
vraiment. Damien n'a pas de.
La réaction des gens est absurde.
Damien n'a pas de contrat de truc consenti dans notre crédulité. Voilà.
Allez voir un médecin, si ça vous arrive. C'est grave.
Moi, je trouve ça trop
bien. Imaginez, vous vous retrouvez avec l'espérance de vie d'un panda roux.
Ah, c'est vrai.
Mais ah, tu te rappelles, on avait regardé un film comme ça.
C'est bien d'être mignon, mais si tu meurs...
Avec un mec qui se transformait en souris, et du coup, il avait l'espérance de vie d'une souris.
Oh là, c'était nul. Ah, c'était nul.
Alors
que c'était un enfant.
C'était sacré sorcier.
Ça a l'air bien dit comme ça.
Non, en fait, il va mourir en même temps que sa grand-mère, du coup.
Non, mais
c'est terrible, c'est horrible.
Je me souviens, vous en avez parlé, vous avez dit que c'était horrible.
Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé.
Non, mais franchement, le bon point, moi, franchement, la musique, le buzz love, enfin, la musique était trop bien. Les histoires de filles et tout, c'était trop cool.
Le gros Pandarou, c'était bien.
Le Pandarou était sympa, ouais, il avait l'air tout doux, j'aimais bien. La maman aussi, le fait qu'elle s'entendait pas avec sa mère et qu'en fait, ouais. Ce cycle, en fait, de quand t'es ado, tu t'entends pas avec tes parents, mais en fait, c'est un peu tout le monde comme ça. Ça, j'ai bien aimé. Et
ça, c'est un petit peu aussi un message aux enfants qui regardent le film en disant, ouais. Vous aimez pas vos parents, c'est pas vrai, mais vous avez des divergences avec vos parents. Bah, dites-vous que vos parents avaient des divergences avec leurs parents.
Et je pense. Leurs parents avaient sans doute des divergences.
Voilà.
Et puis, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais le fait qu'elle est d'origine chinoise, il me semble, dans le film.
Oui.
Et bah, le
il
fait.
Y a
aussi...
du bambou.
Non, non, mais le fait que t'as l'impression qu'en gros, c'est pas. Enfin, tu vois, elle a que des A. Enfin, ça montre un peu aussi les stéréotypes qu'on pourrait avoir sur oui. Les familles immigrées des pays asiatiques qui veulent que leurs enfants réussissent beaucoup parce qu'en fait, eux, ils n'avaient pas tout ça en fait, dans leur pays et que c'est aussi pour ça qu'ils sont venus aux États-Unis.
C'est au Canada.
Au Pardon, Canada, du coup, pour le coup, oui, mais dans les pays...
D'Amérique du Nord.
Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça pas mal aussi qu'elle essaie toujours de faire plaisir à sa mère. C'est pour elle, c'est le plus important. Et qu'à un moment donné, elle dit non, mais en fait, c'est ma vie. Et du coup, je peux pas faire tout. Je peux pas être à 100% comme elle veut. Il faut que je vive aussi pour moi. Et c'est ça son émancipation. Et j'ai trouvé ça. Enfin, c'est super bien écrit.
Mais moi, j'ai bien aimé le début justement où en fait, elle se présente à nous. Alors, ça brise un peu le quatrième mur. Et c'est dans la bande-annonce où elle dit je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux tout le temps. Et en fait, bah, deux minutes après. Dès qu'elle arrive chez elle, on voit qu'elle est, elle fait pas du tout ce qu'elle veut. Ouais. Elle est complètement bridée par sa mère. Elle est même plus en étau presque.
Elle est contente de.
Mais c'est pas voilà, elle est pas bridée parce que sa mère l'oblige. C'est en gros, c'est pour elle, c'est un espèce de.
Enfin, c'est comme un honneur. Familial,
ouais,
quoi.
C'est un truc. Elle le fait parce qu'elle veut pas décevoir sa mère.
Oui, d'ailleurs, même à la fin, une fois qu'elle, enfin, c'est un peu vite dit, mais une fois qu'elle est émancipée, elle continue de le faire en fait. Donc, de toute façon, ça, elle aimait le faire au final.
Oui, mais
c'est juste qu'elle faisait pas tout ce qu'elle aime. Quoi.
Mais on voit bien avec la scène finale au temple que les relations avec sa mère se sont apaisées, qu'elle est, oui. Sa mère est moins oppressante.
Ouais, mais tu vois, sa mère, quand elle sort du temple, elle lui dit quand même, t'y vas comme ça, parce qu'elle a sa queue de panda et ses oreilles de panda sur la tête, et elle lui dit, oui, j'y vais comme je veux.
Mais là,
et
du coup, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Du coup,
c'est ça.
On devine qu'elle fait
oui, mais
qu'elle
tu vois,
a plus de liberté.
Elle lui pose quand même la question en mode, et je sais plus qui lui répond, non, mais laisse-la, c'est son mari qui lui dit, non, mais laisse-la aller.
Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'en fait, cette scène-là, c'est un peu quand. Quand on fait des réflexions aux filles en disant tu vas vraiment sortir habillée comme ça, ou les filles des
elle a des oreilles de panda sur la tête et une queue
non,
de panda.
Non mais ça peut être métaphorique.
Mais oui, ça peut être ça. Ouais.
Et que du coup bah elle dit je m'habille vraiment comme j'ai envie de m'habiller.
C'est vrai. Oh d'ailleurs le père de famille le plus effacé du monde. Il a.
Ouais
mais je pense que c'est fait exprès. C'est parce que ce qui était intéressant c'était un peu la relation mère-fille et grand-mère-fille. Enfin les trois générations de femmes c'est ça qui était le plus. Et surtout que la malédiction était que entre les femmes.
Oui.
Et parce que les pour le coup.
Même si le père a en arrière-plan a quelques blagues très drôles.
Oui.
C'est vrai.
Mais après aussi, ça fait du bien de voir des personnages masculins un peu effacés aussi.
Ah oui, non, mais clairement. Ça...
Mais en fait, je pense qu'on n'est pas habitué. Du coup, peut-être que ça, sur le coup, on se dit, oh bah, du coup, ils ont un peu effacé les personnages masculins. Mais en fait, c'est juste qu'il y a tellement de séries ou de films où c'est le contraire.
Déjà aussi, ouais.
Tout à fait.
Pour conclure, moi, j'ai dit que j'avais bien aimé. Je pense pas que ça deviendra un classique Pixar comme Coco, Ratatouille ou Lao. Mais.
Moi, je le re-regarderai.
Par contre, voilà, je le regarderai avec plaisir. Et surtout, il ouvre la porte à plein de films Pixar moins contraints au même cahier des charges qui est tout le temps pareil.
Moi, je veux un film dans les années 80 ou 90, enfin des trucs bien, bien nostalgiques de ouf avec où on met des cassettes, où il y a des chorégraphies. Ah non, mais moi, j'attends que ça. Hein. Mais là, ils ont ouvert la porte vers un truc.
Mais
moi, j'ai trop envie de plonger dedans.
Depuis que ça a, on va dire, changé d'équipe à la direction de Pixar. Mmh. Eh ben, on sent que tout est possible maintenant, quoi.
J'ai trop hâte.
Ah, moi, j'ai mis que j'avais beaucoup aimé la BO. Pardon, j'avais pas dit ma
Mais oui, la BO, elle est trop bien.
J'ai beaucoup aimé la BO, du coup, même si on en a déjà un petit peu parlé. Ça m'a fait rire, le fait que la maman, elle soit énorme. Je ouais. m'attendais pas.
Ça fait
un peu gros. C'est là vraiment.
C'est un... Non, on parle du panda.
C'est très marrant.
Oui, oui, on parle du panda. Du
panda. Son panda et, oui. et c'est Godzilla quoi.
Mais en fait, ça j'ai oublié de le dire quand je voulais parler de l'animation. Oui, ça fait vraiment très kaiju et je trouve qu'il y a plein de.
Mais c'est normal.
Même si c'est une famille chinoise, il y a plein de petits trèfles à l'animation japonaise. Mm. Déjà, dans l'animation, il y a pas.
Les yeux. Des fois, les filles quand elles sont trop onibilées ou qu'elles trouvent un truc trop beau, leurs yeux changent et c'est des yeux qui deviennent tout kawaii.
Voilà, ça devient très kawaii la maman panda, ça fait très kaiju.
Mais je pense que c'est parce qu'elle a tellement d'émotions refoulées que.
Mais c'est ça, oui, l'histoire, c'est ça par contre. Que... Ouais. C'est celle qui a peut-être le plus pris sur elle, donc du coup, c'est elle qui a le plus gros panda.
Et du coup, je mets 3D.
3D.
Je fais comme Télérama avec.
Des D comme Damien. Oh la vache. Tu mets que 3.
Je mets 3D.
Sur 5 ?
Moi, je mettrais 4D.
Bah, si j'avais pu mettre des demi, j'aurais mis 3,5, mais je peux pas.
Oh, on peut mettre des demi.
Moi, je pourrais mettre 4D.
Tu peux pas mettre un demi-D, c'est bah. Qu'une lettre.
Alors, c'est pas des D, du coup. Moi, je mets 4,5.
On note sur 10.
4,5, s'il vous plaît.
Parce que moi, j'ai envie de mettre 7.
Et
sur
sinon,
10,
si c'était sur 20, je mettrais 16.
Moi, je mettrais 15 sur 20.
Ça marche pas, 4,5 fois 5, ça fait pas... 16.
Bah, je mettrais 16 sur 20. Les notes, c'est vraiment horrible. Tu vois, quand je note mes livres sur les différentes applications, c'est horrible. Il y en a, c'est sur 20. Il y en a, c'est des étoiles. Et il y en a, c'est des étoiles où tu peux mettre des étoiles et demi et d'autres, non. C'est une véritable galère. Un livre qui a 3 étoiles, ça veut, pour moi, c'est une note entre 13 et 15, tu vois. 3 étoiles.
Non, c'est juste 3 fois 4.
Ouais, mais non, mais ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Enfin, c'est très compliqué parce que plus tu peux mettre une note genre sur 20, plus tu peux...
Nuancer.
C'est plus nuancé. Quand tu dois mettre une note sur 5, c'est vraiment horrible. Mais la plupart du temps, je mets 3 ou 4. C'est rare que je mette plus. Voilà.
Je suis d'accord. Mais je suis d'accord que...
C'est horrible. C'est un casse-tête horrible. C'est un casse-tête horrible. C'est pour ça que si vous avez sur...
Pistrano.
Non, que vous allez sur... j'ai été coupée, je ne sais plus ce que je voulais dire. KPDP. Que vous allez sur Capitaine Watch, au lieu de mettre des notes, vous pouvez mettre des... Il n'y a pas de notes, en fait, avec des notes.
Des emojis.
C'est, mm-hmm. C'est pas que des emojis, je crois surtout que c'est genre...
Non, il y a un j'adore,
j'aime
beaucoup,
j'ai aimé,
j'aime
ouais, c'est
un
ça.
Peu, j'aime pas.
Bah oui, mais c'est juste une notation masquée, enfin...
Oui, après,
mais
oui.
En gros, ça t'évite de mettre des étoiles, tu vois. C'est j'aime pas, j'ai aimé un peu, j'aime beaucoup, j'adore. Enfin, tu vois,
mais
c'est.
Ça,
c'est
alors vraiment, on va pas débriefer Captain Watch ici, mais ça manque d'un. Un bof. Voilà.
Ça manque d'un bof, je suis d'accord. Ouais, mais d'ailleurs, dans mon bullet journal, j'ai des abréviations comme ça cœur rouge, cœur noir, cœur moyen, virgule. Enfin, c'est compliqué.
Mais moi, j'aime bien noter en emoji. Ouais, après, on peut pas faire de moyenne, mais j'aime bien noter en emoji. Voilà, on va passer aux recommandations du mois d'avril. Mathilde, on te laisse la parole pour avril.
C'est moi. Alors, ça continue, il n'y a plus rien qui continue.
Mais si, il y a Moon Knight.
D'ailleurs, on n'a pas regardé Snowpiercer, ça devait continuer.
Ça continue
mais non, ça ne continue pas, c'est s'arrêter
c'est
à mon avis. Bah,
eh ben, le mois prochain, on en parle.
Le temps. Moon Knight, c'est comme ça que ça se dit ?
Moon Knight, oui.
Dispo sur Disney+, il y a le premier épisode qui est sorti cette semaine, comme vous l'a dit Damien.
Avant-hier.
Ça sort tous les quoi, Damien ?
Ça sort tous les mercredis.
À quelle heure ?
Je sais pas, moi.
Vraiment, le mec blasé, je sais pas. Arrêtez de me faire chier.
Et bah voilà, c'est tous les mercredis. Est-ce que c'est un Marvel ?
Oui, c'est Marvel Studios.
C'est Marvel. Oh, j'ai une info Marvel.
Oh là, alors attention, breaking news.
Et bah, vous savez que les séries Marvel de Netflix ont disparu.
Non, mais super,
oui.
C'était le mois dernier.
Oh, c'est vrai que
non,
être une
c'est
actu.
Là,
non,
mars.
C'était en mars.
Oh, mars, ça a disparu.
On ne
sait
pas où elles vont aller.
Ploup. Non,
c'est pas sûr.
C'est pas sûr. La question est la suivante. Est-ce que Disney Plus va juste reposter ses séries ? Ou est-ce que Disney Plus va continuer ses séries ? Ou est-ce que Disney Plus va rebooter ses séries ?
On parle d'un soft reboot de Daredevil.
C'est...
Donc avec le même...
Ouais. Soft reboot parce que même acteur, mais nouvelle histoire.
Bah, c'est bizarre, parce que c'est déjà bien ce qu'il y avait. Mais...
Ouais, mais c'est vraiment pas dans l'ambiance. Enfin, on l'a vu avec le Kaïd.
Ouais.
Dans,
avec
Hawkeye.
Spider-Man, ouais.
Dans, non, non, avec
c'est
dans Hawkeye.
Justement, que toutes les séries soient pas dans la même ambiance. L'ambiance est beaucoup
plus. Oui,
non,
c'est bien. Mais, oui, bah, je sais bien, mais bon. Ah,
voilà. Mais en tout cas, elles ont disparu de Netflix. Bah ouais. Voilà, c'était la petite actu dans
l'actu
la fin.
De la fin.
L'actu de la fin. Bon, et sinon, on regarde quoi ce mois-ci ? C'est comme ça qui est important. Le 1er avril, Lolkiri sort saison 2 sur Prime Video. Alors,
c'est un poisson
d'avril
ou quoi ?
Qui s'intéresse ?
Pas
ouais.
Moi.
Hein ?
Pas moi.
C'est toi qui as mis ça ?
C'est moi, mais pas moi. Bah, ah. Vraiment, il n'y avait rien qui sortait si
ah
on
oui.
mettait pas ça. Hein.
Toi, tu l'as mis pour...
pour l'annonce.
Pour l'annonce.
Mais
okay.
Moi,
je ne regarderai pas.
Je ne regarderai pas, le cast ne me plaît pas.
Ah, mais c'est même pas le cast qui ne me plaît pas, c'est que je n'avais pas trop ri.
Ah, s'il y, si y avait un super cast, je pense que j'aurais regardé, mais là, le cast ne m'emballe pas du tout.
Ok, bah non, moi, je ne regarderai pas. Le 7 avril, En Thérapie, saison 2 sur Arte.tv. Arte TV. RTTV. On n'a pas regardé la saison 1, mais on en parlait tout à l'heure parce qu'ils font pas mal de pubs sur nos abris de bus et on aimerait bien regarder. Donc je pense qu'il... Et à ce qui paraît, c'est vraiment pas mal.
Oui.
Moi, c'est... le côté un peu déprimant me faisait peur. C'est pour
mais...
ça que je ne l'ai pas regardé
alors,
encore.
Je...
Non, tu ne l'as pas regardé encore parce que ça sort le 7 avril.
Non, c'est la saison 2. Là, on part de la saison 1.
Okay. C'est... Ouais, mais alors par contre, enfin, c'est 7 avril en linéaire à la télé, mais c'est déjà dispo depuis le 31 mars
sur Salto
sur Arte TV en mode plateforme binge watching. Mais
d'accord.
Alors par contre, tu dis que c'est déprimant, c'est sans doute déprimant, mais c'est fait par Toledano et Nakash, les deux réalisateurs qui arrivent toujours à mettre des émotions un petit peu joyeuses dans leur tristesse. Oh,
ouais, franchement pas mal.
Moi je trouve ce que c'est beau ce que je viens de dire, donc j'arrête de parler.
Le 10 avril, Poupée Russe saison 2 sur Netflix. Alors, j'ai pas vu la saison 1, mais Damien...
Bah, ça parle de poupée, globalement.
Non, yes. C'est pas ça. C'est pas une boucle temporelle,
si,
le principe de la série.
Si.
Je suis étonnée.
Et apparemment, la saison 2 se passe 500 ans après la première saison. Ça
quoi
a putain de sens.
Déjà, je suis étonnée qu'ils aient fait une saison 2.
Mais elle était trop bien. Vous avez pas regardé, alors que c'était génial.
Mais l'actrice, elle jouait dans Orange is the New Black, il me semble. Ouais. Mais non, en fait, j'ai un peu de mal avec les boucles temporelles.
Ouais, mais c'était quand même trop bien.
Ok, ça marche.
En plus, c'est faux, t'as vu un film avec une boucle temporelle que t'avais adoré.
Lequel ?
The Perfect... Non, The Tiny Map of... Non, The Map... The Map of...
Oui, Tiny
oui
map
mais
of...
ils répètent pas la même
Tiny
chose
map
tous les jours,
of...
et eux, ils savent qu'ils sont...
Là non plus, ils répètent pas la même chose.
Eux, ils savent qu'ils sont dans la
c'est
boucle, donc c'est
pas
différent.
Un film où ils sont juste tout le temps dans une
ah
boucle,
oui.
Ça aurait
moi, j'ai vu
intérêt.
Un film nul avec une boucle temporelle, c'était Projet Almanach, ne le regardez pas.
Par contre, je comprends le nom.
Ok. Sinon, le 13 avril, L'âge de glace, les aventures de Scrat, saison 1
c'est
sur Disney+.
Plus.
Ça t'intéresse, ça, L'âge de glace ?
J'ai vu le 1 et rien d'autre.
Ouais, mais bah, moi,
je
suis pas sûre de
regarder. Je ne juge pas, par contre.
Mais t'as vu le 1 de quoi ?
De L'âge de glace.
Ah, les films, tu veux dire ? Oui, mais là, c'est...
Là, c'est une série.
Quoi ? T'as pas vu L'âge de glace ?
J'ai vu le 1.
C'est bizarre.
Moi j'ai dû voir le 1, le 2 et le 3.
Bah,
mais j'ai des petites sœurs et des petits frères. Toi t'as personne.
C'est l'âge de glace.
Non, c'est pas vrai, il y a une sœur. Désolé.
Mais oui. Que...
J'ai un petit frère aussi, j'ai pas vu quand même.
Oh, il est pas si petit.
Bah non. Mais...
Il est de quelle année? On va en débattre.
96.
Ah, bah ma sœur aussi.
Oh.
Bah, moi j'ai plus petit.
Plus
jeune.
Ah oui, toi t'as
plus
petit.
De toute façon, j'ai pas été
toi
voir l'âge de glace avec ma sœur.
Bon, on continue. On continue parce qu'il y a vraiment l'annonce de l'année. L'annonce de
l'année.
L'annonce la plus grosse du moment, le 22 avril 2022. Beaucoup de 22. Il y aura la saison 1 de Heartstopper sur Netflix.
Jamais entendu parler.
Quoi ? Franchement, les gars, ça doit faire un an que j'en parle sur ce récapito. Et j'ai hâte, mais comme jamais. Vraiment. Et j'ai très peur d'être déçue parce que je l'attends tellement.
Parce que tu te hypes vraiment beaucoup.
C'est vrai que ça
va. Ah, c'est très bien de se hyper, mais effectivement, il faut anticiper la déception.
Franchement, les gars, on se revoit le mois prochain et ça sera le sujet du mois, le coup de cœur, tout ce
pardon
que vous voulez. Non, pas le sujet du
on
mois, mais ça sera, au moins un coup de cœur, je l'espère. Et je crois...
Attends, c'est de l'animation
crois
ou pas?
J'y crois. Non, non, c'est du live action.
Ah bon?
Ah, la déception. Moi aussi, ouais, ça aurait pu être de l'animation, mais non.
Oh non,
c'est
mieux en live action.
C'est du live action. Franchement,
j'aurais pas regardé si c'était en animation, mais là j'ai envie de regarder.
Je sais pas ce que ça va donner. Il y a pas beaucoup d'épisodes, non. Donc ça va sûrement aller très très vite. 28 avril, Les 7 vies de Léa, saison 1 sur Netflix. C'est moi qui ai mis cette série car c'est l'adaptation d'un livre de young adult que je n'ai pas lu, mais ça a vraiment l'air pas mal. J'ai vu la bande-annonce et ça me donne vraiment envie. C'est en fait, il y a une jeune fille qui s'appelle Léa et qui des fois se réveille dans un autre corps que le sien. Et du coup, l'histoire raconte ça. Ça a l'air cool, hein ?
Non ouais, okay. Ça a l'air cool.
Il y a également le 28 avril, Bubble. C'est comme ça qu'on dit ?
Oui.
Bubble, film d'animation japonais sur Netflix. Alors là, comment vous dire, j'ai regardé la bande-annonce.
Oh, on a le sujet
c'est
du mois.
C'est incroyablement beau, les gars. Ça ressemble à du parcours. Ça a
parcours, ouais.
Ah, il y a du parcours.
Non, mais ça a l'air incroyable. La musique, visuellement, ce truc, ça va être une bombe. Une bombe. Ça a l'air trop bien. J'ai hâte de le voir. Quelque part, en avril.
Il n'y a pas de date.
Pas la date.
Vraiment, Disney ah ouais en a parlé en disant ça en avril.
Sur ordre de Dieu, film avril. Avec Andrew Garfield,
Arville,
le
c'est
chat.
Du savon.
Le chat.
Ça, c'est Damien qui a écrit le chat.
Zéro rêve.
Garfield, le chat. Ok, j'ai compris. Ah là là, mon Dieu.
J'ai lu une BD d'ailleurs de Garfield, le chat.
Du coup, c'est sur Disney+. Donc, il n'y a pas de date, c'est bizarre.
Bah non.
Mais j'ai vu en fait que ce film allait arriver. Mais il y a Andrew Garfield, donc ça peut être bien.
Mais je suis vraiment pas sûr que ça soit ton truc.
Ah bah
ça, ça a l'air d'être un mélange de Trou Détective.
J'aimais bien la saison 1 de Trou Détective.
Ah ouais, bah apparemment c'est vraiment plus comme la saison 1.
J'ai pas regardé la suite après, mais je crois que...
Ça a l'air d'être, si j'ai bien compris, c'est un mélange entre Trou Détective et un peu le Diable Tout le Temps.
Pardon.
Ah ouais, le Diable Tout le Temps, c'était pas ouf, hein. Ça faisait grave bader.
Il n'y a que moi qui l'ai vu.
Ouais, mais de ce que tu m'en as dit, ça ne m'a pas donné envie de regarder.
Ah oui, c'était
un
peu Darkos, ouais.
Bon, bah voilà, c'est tout. En vrai, pas énormément de choses pour le mois d'avril.
Non.
Mais en tout cas, on a des séries à rattraper. Moi, je peux déjà vous dire que je vous parlerai d'Upload, sûrement d'un drama, de Heartstopper à coup sûr, parce que voilà, on ne peut pas passer à côté. Snowpiercer, j'espère. Nana. Parce que je regarde l'animé en ce moment et ça
t'es
me brise le cœur.
T'es en train de rajouter une nouvelle rubrique là.
Et voilà.
La rubrique des trucs que Mathilde regarde.
Ça pourrait être un podcast oui. À lui tout seul. Hein.
C'est ça. Je laisse la parole au présentateur.
Oula, mais on n'a pas décidé ce qu'on regardait.
Alors, le sujet du mois prochain sera donc Heartstopper. Parce que c'est trop cool. Et qu'on aime trop Alice Osman. Voilà, c'est dit.
Ainsi se termine ce 17e épisode du Récapito. On espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez nous mettre des étoiles pour nous aider à être mieux référencés. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux Insta et Twitter.
On peut mettre des étoiles sur Spotify maintenant, sur les podcasts,
ouais.
Vous avez vu.
Ah ouais, non, j'ai pas vu ça encore.
Oui, on peut.
Incroyable. Bah,
n'hésitez pas à le faire. Et puis surtout, suivez-nous sur notre blog plaid.fr.
Oui, car chaque semaine sur plaid.fr, vous avez... 2 à 3 chroniques de livres, de cinéma, de séries, de trucs qui se passent du
moment.
De
jeux vidéo.
Non.
De
non.
BD.
Non. De BD des fois.
Ah si, des fois de la BD. Des fois des mangas.
Il y a des trucs qu'il n'y a jamais, c'est jeux vidéo et musique.
Ouais.
Une actu tech.
Non plus. Mais tu peux la créer si t'as envie.
Les prochains AirPods.
Voilà, voilà.
On se retrouve le mois prochain pour parler donc de Heartstopper. Merci Mathilde.
De rien.
Merci Damien.
Ah, je reprends mes vieilles
habitudes. Merci à toi.
Et comme on dit nous autres et les humoristes, c'est tout pour moi. Merci, bonne soirée et salut.
C'était à peine prétentieux.